Bonsoir! Bonjour, bonsoir les amis, comment ça va? Attendez, je vais augmenter mon micro, promis. Hop, voilà. Voilà. Et je voulais faire quoi? Je voulais baisser le casque. Merde, je sais plus où c'est. Non. Système, non. Routing, non. Micro. Bon, bah je sais pas où c'est pas grave. On s'en fout, c'est mon problème. Je suis censé aller à la salle de sport, mais flemme. C'est la base. C'est normal, c'est à ça que ça sert. La salle de quoi? Non, je sais pas ce que c'est. Le truc où on transpire là? Pas mon truc. Ici, on bouffe des cartes graphiques. Merci pour vos subs. Merci Mehmet Sama. Merci Obin. Je viens de me réveiller, mais c'est normal, il est 19 h du matin. T'as tout à fait raison de te réveiller. Le business de la salle de sport marche comme ça. Oui, j'avais appris ça. J'avais appris que les salles de sport, elles font du surbooking à balle, en comptant sur le fait que les gens vont arrêter de venir. Il y a toujours plus de monde vers la rentrée, et au fur et à mesure que t'avances dans l'hiver, il y a de moins en moins de monde. Perso, j'ai pris un abonnement à la salle de flemme, beaucoup plus rentable. Oui, ah bah oui, ça c'est sûr. El famoso de janvier, exactement. Comment va ta santé, Jean? Elle va bien, ma santé. Elle va bien. Je vous remercie. L'Assemblée nationale, c'est pareil, 1500 candidats pour 577 places. Il y a plus que 1500 candidats, hein. Il vaut mieux prendre un abonnement à Baxit, c'est plus rentable. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Joli t-shirt, t'as vu? Tu dis ça, mais tu prends pas assez de repos et tu as des cernes, fais attention. J'ai des cernes? Ah ouais. Ah ouais. Merde. Bon bah je vais lever le pied alors. Hein. Genre tu dors. Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Ça m'arrive carrément. T'as vu la CGT? Oui, j'ai vu que la CGT lance un appel à voter pour le Front populaire aux élections législatives. C'est rare, ce type de prise de position politique, électorale, de la part d'un syndicat. En France, on a un usage de séparation stricte entre le politique et le syndical. Et donc, c'est assez rare. Ce n'est pas surprenant dans l'absolu. Je m'attendais pas à ce que la CGT appelle à voter Renaissance. Mais c'est intéressant. Ça montre que l'heure est grave. En tout cas, c'est l'argumentaire de la CGT de dire que il faut mettre toutes les chances du côté du camp social face au Rassemblement national. Et donc ils appellent à voter pour le Front populaire. Comme en 2002 avec Le Pen-Chirac. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. C'est vrai qu'en 2002, la CGT avait appelé à voter Chirac, ouais. C'est dur de se rendre compte l'état dans lequel on était en 2002. Le niveau de sidération face à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour d'une élection présidentielle, quand on dit qu'il y avait 1,3 million de manifestants dans les rues, c'était vrai et c'était à la hauteur du choc que ça avait suscité en fait. Et à l'époque, il y avait un nombre incalculable de tribunes dans les journaux où tout le monde disait qu'il fallait voter contre le Front National, contre Jean-Marie Le Pen, voter pour Chirac, etc. Tout le monde disait ça. 20 ans plus tard, on voit bien que le paysage politique a changé, que le Front National n'est plus au même endroit. À une époque, la CGT était sous influence du PCF, il ne donnait pas de consigne de vote aux adhérents. Non, même à l'époque où la CGT était sous la coupe du Parti communiste français, et à l'époque où la CFDT était sous la coupe du Parti socialiste français, il n'y avait pas pour autant de consigne de vote donnée aux adhérents du syndicat. Les syndicats, traditionnellement, ne se mêlent pas de politique partisane et électorale. Ils s'occupent des élections professionnelles. Ils s'occupent des négociations sociales, mais ils n'interfèrent pas, traditionnellement, historiquement, avec le champ politique. J'étais dans la rue en 2002, mon premier vote, juste pour éviter le pire, premier d'une longue série. Bah, c'est vrai que les électeurs de gauche ont été malheureusement habitués à voter pour faire barrage au Rassemblement national. et a voté notamment pour Emmanuel Macron à deux reprises au second tour. Pourquoi ils prennent pas part aux politiques, les syndicats? Pour pas mélanger les genres. C'est pour pas mélanger les genres, chacun sa place, chacun son domaine. Les syndicats s'occupent du monde du travail, ils s'occupent du monde social, mais ils ne s'occupent pas, ils n'ont pas de discours sur des éléments de la politique, comme par exemple les affaires étrangères, etc. Ils s'occupent des conditions de travail des travailleurs et des travailleuses, des conditions de rémunération, des conditions de cotisation, etc. Mais ils ne s'occupent pas de politique au sens large. Ça remonte à la charte d'Amiens, effectivement, la charte d'Amiens qui est le document dans lequel les organisations syndicales ont inscrit ce positionnement. C'est quoi les machins qui volent derrière? Il y a des putains de mouches chez moi. J'ai ouvert la fenêtre cet après-midi. Il y a des putains de mouches qui sont rentrées. Je le prends un peu mal. FO, c'est pas un syndicat? Si, Force ouvrière est un syndicat, à ne pas confondre avec Lutte ouvrière, qui est un parti politique. C'est pas la même chose. Vu que Bardella a dit qu'il ne veut pas prendre la tête du gouvernement sans majorité absolue, peut-on être rassuré? Alors c'est vrai que c'est une déclaration qu'a faite Jordan Bardella aujourd'hui, qui m'a un peu surpris. Bardella déclare qu'il ne prendra la tête du gouvernement que s'il y a une majorité absolue de députés RN. Je pense qu'il dit ça pour mobiliser son électorat. Il dit ça pour battre le rappel des troupes. Mais je le crois pas. Moi, je ne le crois pas. Si Jordan Bardella a une majorité relative, il prendra la tête du gouvernement quand même. Donc il peut pas le dire. Parce qu'il a besoin de mobiliser son électorat, mais moi je le crois pas. Hein. Coup de... Si Macron l'appelle et lui dit je vous nomme Premier ministre, il va pas dire ah non. Non, non. Non, j'ai pas assez de députés. Donc Bardella a peu de chances d'être Premier ministre. Bah, c'est lui-même qui le dit, mais c'est pour ça que j'y crois pas. Il veut se donner tous les moyens. La majorité relative, c'est le parti qui a le plus de sièges à l'Assemblée, où il y a une condition. Non, non, effectivement, ce qu'on appelle une majorité relative, c'est être le plus grand nombre de députés, mais pas pour autant avoir la majorité absolue. Genre Renaissance depuis 2 ans. C'est le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas la majorité absolue, même avec leurs alliés du Modem et de Horizon. Il manque combien avant la deuxième émission Backseat des législatives? Je sais pas, j'ai pas fait le point avec mes coproducteurs. J'ai pas fait le point. Je sais qu'il y aura une émission Backseat le 27 juin, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas encore s'il y en aura une après. Pourquoi Bardella serait nommé Premier ministre avec seulement une majorité relative? Parce qu'il aura une majorité relative, qui lui reviendra donc de former un gouvernement, et potentiellement de faire des alliances. Est-ce que t'as vu cette info comme quoi le nombre de procurations en démat était en train d'exploser? Ouais, j'ai vu. Ouais. Il y a énormément d'électeurs qui font une procuration pour ces élections. On sent qu'il y a une mobilisation de l'électorat. On parle de 400 000. Il y a eu un comptage hier, je crois, on a été à 400 000 procurations. C'est énorme. C'est quoi une majorité relative? Majorité relative, c'est être le numéro 1 en nombre de députés, mais pas suffisamment pour avoir la majorité absolue, qui est de 289 députés. Je pense que Bardella a peur de se faire virer avec une motion de censure s'il n'a pas la majorité absolue et il veut éviter l'humiliation. Oui, je comprends, mais ce calcul-là, il est valable pour tout le monde. Avec une majorité relative, pas que lui. C'est pas à cause des vacances, les procus? Si, 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 bah si, évidemment. Y a beaucoup de Français avaient prévu de partir en vacances, ils n'avaient pas prévu d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils seront pas chez eux à cette date, et ils n'ont pas envie de rater l'élection, quoi. Ils ont quand même envie que leur vote compte. Donc ils gardent leurs vacances, parce que bon, une fois que tu as pris les billets de train, l'allocation, etc., c'est quand même un peu compliqué d'annuler, ça coûte cher. Donc ils annulent pas leurs vacances, mais ils font une procu. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs procus? Je veux pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est une procuration en France et une procuration d'un Français de l'étranger. Je suis pas sûr. Non, une seule? Non, c'est une seule par personne. Si, c'est ça? Ah merde. Le chat est divisé. Un Français et un Français étranger. Moi, c'est ce que j'avais compris. J'avais compris que tu pouvais prendre deux procus. Mais pas plus. Enfin voilà, une personne en France et une personne à l'étranger. Mais alors du coup, je sais pas comment ça marche si c'est quelqu'un d'en France qui se trouve à l'étranger au moment du vote. Enfin, je sais pas comment ça marche. Je suis désolé, je vais vous rediriger vers les sites internet de l'État qui vous expliqueront ça mieux que moi. Tu penses pas qu'il peut y avoir une guéguerre interne au Rassemblement national sur la ligne pour la campagne? Non, alors ce qu'on constate depuis lundi, c'est que Jordan Bardella met énormément d'eau dans son vin. Jordan Bardella se rend compte que ses marges de progression en matière électorale, c'est chez des gens de droite qui jusque-là ne votaient pas RN et qui sont tentés de voter Bardella. Et pour les rassurer, il essaye de beaucoup, 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 beaucoup minorer son programme, en rassurant les gens. Il a fait une longue vidéo en s'adressant aux femmes, parce qu'il se rend compte qu'il y a une marge de progression aussi chez les femmes pour l'électorat RN. Il a dit que la baisse de la TVA sur l'énergie, on verrait plus tard. Il a repoussé plusieurs trucs à plus loin. Il essaye de rassembler le plus large électorat possible. Et ce faisant, ouais, c'est ça, il met de l'eau dans son vin. Sur la retraite, c'est pareil. Sur la retraite, quand on l'interroge sur la réforme des retraites, il dit on verra, on va hériter. Si j'arrive au pouvoir, j'hériterai d'un État dans une situation financière très délicate. Donc, il renvoie à plus tard. Est-ce que le RN ne fait pas trop de promesses compliquées, car ils ont peur de pas de devoir les tenir? Non, mais ça, c'est pareil que les autres. C'est valable pour tout le monde, ça. Le Front populaire a présenté un programme en se gardant bien de donner un calendrier. Parce que eux aussi, s'ils arrivent au pouvoir, le Front populaire, ils se doutent bien que, compte tenu des finances publiques, il va quand même falloir faire rentrer de l'argent, dépenser beaucoup d'argent, est-ce que tout se fera peut-être pas en même temps? Ça dépend des mesures. Ouais, c'est ça dépend des mesures. Ce qui est au demeurant assez classique, hein. Assez classique pour un parti politique. Ils ont fait les 100 premiers jours. Oui, alors les 100 premiers jours, c'est une tradition maintenant. C'est une tradition qui remonte à 2007, je crois. Je crois que c'était Sarkozy et Ségolène Royal qui avaient présenté des programmes des 100 premiers jours. C'était très à la mode à ce moment-là. Et depuis, c'est un peu resté pour les programmes des élections présidentielles de présenter un calendrier des 100 premiers jours et des premières mesures qui seront prises immédiatement. Mitterrand, les 100 jours. Oui. Oui, alors Mitterrand, dans son programme de 81, avait effectivement un volet sur les 100 premiers jours. Mais à l'époque, c'était le seul. Et on n'insistait pas beaucoup dessus. Moi, je me souviens vraiment de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, où tous les journalistes leur demandaient les 100 premiers jours, etc. Sauf que les 100 jours de popularité n'existent plus vraiment. Alors effectivement, ce qu'on appelait les 100 jours, enfin pourquoi 100 jours? Parce qu'il y avait une espèce de tradition, plutôt pas une tradition, qui était un constat dans les opinions publiques, qu'on appelait l'état de grâce. Quand un président de la République était élu, dans les 100 jours qui suivent, il avait sa cote de popularité qui augmentait. Parce que les Français disaient, bon, bah, il est élu, on va lui donner sa chance. On verra bien, on attend de voir. Donc il y avait une espèce de période comme ça, où après l'élection, il y avait plusieurs mois pendant lesquels le président avait franchement les mains libres pour gouverner. Il faisait une dissolution quand il n'avait pas de majorité, il y avait des élections dans la foulée, il avait une majorité, bon, très bien. Et avec ses députés, il commençait à mettre en place les premières législations, en général en faisant des trucs très symboliques, ce qui est normal quand tu viens d'arriver au pouvoir. Sauf que ce truc de l'état de grâce, en fait, a complètement disparu. Depuis le début du XXIe siècle, on voit bien que le niveau de tension dans la société et la chute de confiance dans les responsables politiques se matérialise assez vite dans les cotes de popularité des présidents de la République. Dès qu'ils sont élus, ils deviennent impopulaires assez vite. Donc le coup des 100 jours un peu peinards où tu peux faire des trucs, ça a un peu disparu. Aujourd'hui, il ne reste que la frustration de ne pas avoir gagné. Pour les opposants, oui. T'avais ça aussi à l'époque de l'état de grâce. Une des raisons aussi pour lesquelles il y avait un état de grâce, c'est parce que les opposants venaient d'essuyer une défaite et que ça ouvrait une crise dans leur parti politique. Donc du coup, les opposants avaient pas trop le temps de s'opposer, ils étaient tournés vers l'intérieur, en train de s'engueuler pour savoir pourquoi ils ont perdu, etc. Machin. Donc voilà, les 100 jours, l'état de grâce s'était manifesté par ça. Record de procuration pour ce scrutin, oui, c'est possible, on en discutait effectivement. Énorme pic de procuration pour ces élections. Je pense que c'est le double effet des vacances, donc de l'impréparation, du fait que les gens avaient pas prévu d'être là pour voter le 30 juin et le 7 juillet. Et le deuxième effet, c'est la menace du Rassemblement national. Beaucoup d'électeurs voient la gravité du moment. Et se disent que ils n'ont pas envie que leur voix manque. Ils disent que ce serait quand même dommage, je vais faire une procu. Hop là. Peut-être l'un des plus hauts taux de participation. On verra, ce serait intéressant. Ce sera intéressant à étudier, effectivement, s'il y a un pic de participation, à qui bénéficiera-t-il? Est-ce que ce sont les électeurs du Rassemblement national qui seront allés très nombreux aux urnes parce que la perspective de victoire était là? Est-ce que ce sont des électeurs de l'opposition? Est-ce que ce sont les macronistes qui boudaient un peu les élections ces derniers temps, qui sont pas beaucoup allés voter aux européennes? Est-ce que c'est une bonne chose la coalition du Front Populaire? Ça, c'est à toi de me dire ce que t'en penses. Pour les partis du Front Populaire, oui, c'est une bonne chose parce que c'est la garantie de ne pas se gêner les uns les autres dans les circonscriptions. Donc, c'est la garantie d'avoir quand même beaucoup de second tour, déjà, et au moment du second tour, éventuellement beaucoup de victoires, donc beaucoup de députés. C'est pour ça qu'ils font une alliance, les partis politiques. C'est le cœur autant que la raison. Il sert à quoi le second tour des législatives s'ils ont tous des sièges selon leur pourcentage? Alors non, c'est pas comme ça que ça marche. Les élections législatives, ce sont des élections au scrutin majoritaire, uninominal, par circonscription. Donc dans chaque circonscription, tu as plusieurs candidats, un peu comme une présidentielle, une petite présidentielle par circonscription, et il n'y aura qu'un vainqueur. Et le calcul des voix se fait à la majorité. Majorité absolue en cas de second tour à deux candidats, majorité relative s'il y a trois candidats ou plus. Tu confonds avec les européennes. Ouais, tu dois confondre avec les européennes. Tu as raison, les européennes, c'était un scrutin de liste proportionnel. Chaque liste a gagné des députés à la proportion des voix qu'il a fait. Donc on compte le nombre de députés en fonction du nombre de voix qu'ils ont eues. Il se passe quoi concrètement si personne n'a de majorité qui gouverne? Bah ça, c'est ce qui risque d'arriver, effectivement, vu la tripolarisation du paysage politique. Ce n'est pas du tout certain que le RN arrive à une majorité absolue, ce n'est pas du tout certain que le Front populaire arrive à une majorité absolue, c'est très peu probable que les macronistes arrivent à une majorité absolue. Qui gouverne à ce moment-là? Bah à ce moment-là, on nomme ce qu'on appelle un gouvernement technique. On met un haut fonctionnaire, un technicien, à la tête d'un gouvernement avec des ministres qui en fait n'ont pas les coudées franches pour mener de grandes réformes. De grandes réformes qui auraient besoin d'une majorité solide pour les soutenir. Donc ça, et on se retrouve dans un système de blocage institutionnel, où la France a un gouvernement purement technique, mais il n'y a plus d'avancée politique dans aucune des directions, hein, ni extrême droite, ni gauche, ni centre, ni... C'est un gouvernement qui fait passer que les affaires courantes, qui fait passer des budgets de reconduction, avec pas de grandes réformes fiscales, pas de grandes réformes en matière de dépenses de l'État. C'est un pays qui est à l'arrêt pendant potentiellement plusieurs années. Au moins, ce sera stable. C'est très peu stable, hein, ce genre de gouvernement-là. Hein. Vu qu'ils peuvent rien faire, s'ils essaient de faire le moindre truc, ils risquent de se bouffer une motion de censure. La dissolution de l'Assemblée est possible selon quelle fréquence? Tous les ans. Oui, tous les ans. Une fois par an. Dans la Constitution, il est écrit que tu dois laisser passer un délai d'un an après une dissolution, avant de faire une nouvelle dissolution. C'est ce qui s'était passé en Belgique il y a quelques années. Oui, c'est exactement ça. C'est Macron qui propose le haut fonctionnaire. Oui, mais il faut qu'il soit accepté par l'Assemblée. Donc je vous laisse imaginer quel genre de gouvernement sera accepté par le RN, le Front populaire, les macronistes. Vraiment un gouvernement pas ouf, hein. Castex le retour. Si Macron démissionne, le nouveau président peut dissoudre? Pas tout de suite, non. Il doit attendre le délai d'un an avant la dissolution précédente. Mbappé. Vous avez vu qu'Mbappé, il a saigné du nez? Très très belle prise de position d'Mbappé contre le Rassemblement national avec ce saignement de nez qui a marqué les esprits des Français. On a tous compris le message. Son nez penché à gauche. T'es con. Le message était clair. Ah ouais, non, c'est très engagé pour un sportif, hein. On en pense quoi du comeback de Hollande? Ah, moi, ce que je disais hier, déjà, ça m'amuse beaucoup, le comeback d'Hollande. Qui va se retrouver à l'Assemblée, je trouve ça très drôle. Mais indépendamment de ça, et surtout, il soutient le Front populaire qui a un programme radicalement différent de celui que lui a mis en œuvre. Il a mené une politique de l'offre, là c'est une politique de la demande qui est proposée. Bref, ça me fait marrer. Mais ce que je disais aussi d'un point de vue purement tactique, c'est que je pense que pour le Front populaire, c'est une bonne chose que François Hollande soit candidat, pour une raison très simple, même si une bonne partie du Front populaire n'aime pas... François Hollande, le fait qu'il soit candidat du Front populaire, ça nique l'argument des macronistes qui consiste à dire que le Front populaire c'est une alliance d'extrême gauche, qu'on peut pas leur faire confiance, etc. C'est des hurluberlus, ils ont aucune compétence, etc. Cette espèce de truc de turbo-responsabilité des costumes cravates de chez Macron. Bah, en fait, quand t'as un François Hollande qui est candidat, qui soutient le Front Populaire, t'as l'air con. Quand t'as Lionel Jospin, hier matin sur France Inter, il est quand même très respecté, Lionel Jospin, qui soutient le Front Populaire. Je veux dire, c'est des voix qui portent, ces voix socialistes-là. D'ailleurs, c'était très marrant quand Lionel Jospin a été interrogé sur la candidature de François Hollande. Il a commencé par dire « Je vous rappelle que François Hollande, c'est le seul socialiste qui a réussi à gagner une élection présidentielle depuis François Mitterrand. » Espèce de rappel à l'ordre de la part de Lionel Jospin. Ok, Lionel. D'accord. Jospin est toujours vivant politiquement. Non, Lionel Jospin ne fait plus de politique, ce qui d'ailleurs lui donne aussi une valeur importante. La parole rare, c'est une parole chère. Lionel Jospin, il a été membre du Conseil constitutionnel pendant 9 ans, je crois. Il est resté très en retrait de la vie politique, il est âgé, et il est interrogé par France Inter dans la matinale parce qu'il a été lui-même Premier ministre d'une coalition de gauche entre 1997 et 2002. C'était vachement bien de la part de France Inter de l'interroger. Ils ont eu vachement raison, France Inter, c'était vachement bien. Avoir Jospin, c'était le bon moment. Et Jospin qui est là avec sa hauteur de vue, avec sa vieillesse aussi, qui marque quand même vachement, avec sa voix fluette et tout, qui se retrouve au micro de France Inter à soutenir le Front Populaire. C'est un bon point dans le camp du Front Populaire. Du coup, Hollande, Premier ministre du nouveau Front Populaire. Non, non, Hollande ne sera pas Premier ministre. Hollande ne sera pas Premier ministre parce que c'est une personnalité clivante. On l'a dit et tout le monde est d'accord avec ça. La personne qui sera Premier ministre du Front Populaire sera une personnalité qui fait consensus entre les membres du Front Populaire. Hollande ne fera pas consensus. Les insoumis n'en voudront pas. Donc voilà, donc ils le proposeront même pas. Je pense que François Hollande. Je pense que François Hollande ne vise pas Matignon. Je pense qu'il vise le Parti Socialiste. François Hollande est un apparatchik pur jus qui a fait toute sa vie dans les arcanes du Parti Socialiste. C'est un pur partisan qui connaît extrêmement bien les mécaniques de congrès, etc. Et je pense que ce qu'il cherche, c'est à regagner le parti. Dans une perspective de peut-être. Je ne sais pas. Moscovici, en cas de blocage, je vois pas bien d'autres. Mais non, Moscovici, pareil. Moscovici, il a été ministre de l'économie de François Hollande. Non. Non, 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 non. Moscovici, il plaira pas à la France insoumise. Hein. Moi, je l'ai interviewé, Moscovici, il a tout un discours sur l'endettement, sur la dette publique, la croissance, les déficits, etc. Ça plaira pas à la France insoumise, c'est mort. Non, ce que je disais, moi, et je le maintiens, c'est que je pense que si le Front Populaire a une majorité de députés à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas garanti du tout, le Premier ministre sera une personnalité de la société civile. Une personnalité respectée, une personnalité compétente. Un économiste, un haut fonctionnaire. Une femme première ministre, maybe. Oui, tu as raison, peut-être une femme. Quelqu'un qui fait consensus, qui est respecté, qui est compétent. Thomas Piketty, non, Thomas Piketty, il est trop économiste. Je vois pas Thomas Piketty avoir un discours sur l'école, sur les affaires étrangères, sur l'armée, etc. C'est non. Taubira non plus. Taubira n'a pas de légitimité. Taubira s'est planté avec la primaire populaire en 2022, 2021, pardon. Cécile Duflot. Cécile Duflot. Ça pourrait. Cécile Duflot est une personnalité, je pense, respectée à gauche par beaucoup. Elle a le mérite de ne pas être insoumise, de ne pas être socialiste. Elle a démissionné du gouvernement de Manuel Valls à cause d'un désaccord avec Manuel Valls. Je sais pas. La DG d'Oxfam, oui, Cécile Duflot, elle est directrice générale d'Oxfam France. Usul, mais non, bien sûr que non. Sophie Binet, non, Sophie Binet, trop clivante. Non, tu peux pas prendre la secrétaire générale d'un syndicat en exercice. C'est pas possible. C'est pour ça que quand Raphaël Glucksmann avait proposé Laurent Berger, c'était malin, parce que Laurent Berger, c'est un ancien secrétaire général de la CFDT, il ne l'est plus. Donc, on verra. Mélenchon, pourquoi pas? Parce que Mélenchon est une personnalité trop clivante à gauche. Je le répète, le ou la première ministre du Front populaire, dans l'hypothèse où le Front populaire a une majorité de sièges, devrait être quelqu'un de consensuel. Mélenchon n'est pas consensuel, Hollande n'est pas consensuel, Glucksmann n'est pas consensuel. Julia Cagé? Peut-être. Elle est économiste, c'est une femme. Ruffin, c'est possible. Maintenant, est-ce que Ruffin aura l'assentiment de la France insoumise? Je suis pas sûr. On verra. Ruffin est pas clivant? Bah si, justement, c'est ce que je dis. Ruffin est clivant pour une partie de la gauche. Je suppose que la direction du parti La France Insoumise ne souhaitera pas donner à François Ruffin l'opportunité de devenir une alternative crédible à Jean-Luc Mélenchon. Clémentine Autain, pareil. Clémentine Autain, elle aura l'assentiment des socialistes, et encore, c'est pas sûr, des communistes et des écologistes, mais pas des insoumis. Ils sont tous clivants, en fait. Ben, c'est pour ça que je vous dis que je pense que le Premier ministre ou la Première ministre du Front populaire ne sera pas une personnalité politique, ce ne sera pas un député ou une députée. Je pense que ce sera une personnalité de la société civile. Le Front populaire rassemble des partis aux idées divergentes, aucune tête connue ne peut les représenter. Non, enfin, oui, ils ont des idées divergentes parfois, mais ils se sont mis d'accord sur un programme commun. C'est quand même le principe d'un programme commun. Ils se sont mis d'accord. A priori, si le gouvernement met en œuvre ce programme, ils se sont engagés à le voter. En théorie. En théorie. Attendez, faut que j'envoie un texto. Hop. Non, merde. C'est ma maman. Hop. Je suis en stream. Je continue à dire Benoît Hamon. Je vois pas le PS proposer Benoît Hamon. On peut être ministre sans être député. Absolument, on peut être ministre sans être député, ouais. On peut même être premier ministre sans être député, c'est déjà arrivé. Jean Castex n'était pas député. Comment il s'appelle ? Raffarin était sénateur, pas député. Elisabeth Borne, elle n'était pas députée, je crois, quand elle a été nommée. Si, non, si, 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 elle a été nommée après la présidentielle, elle s'est présentée aux législatives. Elle s'est présentée aux législatives de juin 2022. Donc elle a fait campagne des législatives en tant que première ministre. Donc elle a été élue députée, ouais. Ouais, ouais. Hérault, maire de Nantes. Non, Jean-Marc Hérault, il était président du groupe socialiste. À l'Assemblée. Il était plus que député. Et maire de Nantes, effectivement. Pourquoi prendre très souvent un député? Bah, c'est logique de prendre un député pour Premier ministre, puisque le but d'un Premier ministre, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, prendre un député, c'est se garantir que les proches de ce député vont voter pour lui. C'est assez cohérent. Si tu fais un gouvernement composé uniquement de technocrates dont aucun n'est député, bah, ce sera plus facile pour les députés de l'envoyer bouler, ce gouvernement. Pourquoi pas Olivier Faure? Parce qu'Olivier Faure est premier secrétaire du Parti Socialiste, que les Insoumis n'en voudront pas. Est-ce que le NFP est obligé de présenter un candidat Premier ministre avant les élections? Non, il n'y a aucune obligation de présenter un candidat Premier ministre. D'ailleurs, le nouveau Front Populaire a dit qu'ils ne présenteront pas de candidat Premier ministre avant l'élection. Ils ont renvoyé à plus tard la discussion. En fonction de l'état des forces, au sein du Front Populaire, des députés, etc., ils verront. Est-ce que le NFP présentera un Premier ministre s'ils n'obtiennent qu'une majorité relative? Oui, je pense. Je pense qu'ils essaieront, ouais. Ça va être compliqué, hein, parce que si le nouveau Front Populaire a une majorité relative à l'Assemblée nationale, ça veut dire que pour gouverner, ils seront toujours sous la coupe d'une motion de censure venant de tous les autres groupes. Ou alors, ils peuvent essayer de faire une alliance électorale, enfin une alliance de coalition gouvernementale avec les macronistes. Mais là, je vous laisse imaginer comment les macronistes vont faire monter les enchères. Les macronistes, ils vont dire au Front Populaire, ok, on dirige avec vous, par contre, pas d'abrogation de la réforme des retraites, pas de SMIC à 1600 euros, enfin bref. Compliqué. Est-ce que c'est une bonne stratégie du Front Populaire de ne pas dévoiler de Premier ministre avant les élections? C'est pas une en fait, pour moi, c'est pas une stratégie. Le nouveau Front Populaire n'a pas vraiment le choix. Parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils n'arriveront pas à se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre avant les élections. Donc ils préfèrent faire sans. À mon avis, ils sont contraints et forcés de faire ça, le nouveau Front Populaire. Par ailleurs, je pense que pour les électeurs, c'est bien d'avoir un candidat Premier ministre. Ça aide à voter. S'il est consensuel pour les électeurs. Et là, on est dans une élection où il y a trois blocs. Et sur les trois blocs, il y en a deux qui ont un candidat. Le RN à Jordan Bardella, c'est écrit sur les affiches. Le Renaissance, ils ont Gabriel Attal. Et Nouveau Front Populaire, ils ont personne. Est-ce que ça empêchera les gens de gauche de voter à gauche? Non. Ils voteront à gauche. Ils s'en foutent qu'il y ait un Premier ministre désigné avant l'élection ou pas. Est-ce que les indécis, ça les aidera à voter? Peut-être pas. Je pense que c'est un faux départ. Peut-être. Peut-être effectivement que c'est une faiblesse pour le nouveau Front populaire. En vrai, c'est pas mal, parce que si tu présentes pas de tête, tout le monde imagine quelqu'un qui l'aimerait bien. On peut le voir dans le chat. Oui, tu m'accorderas que c'est à double tranchant. Tu m'accorderas que c'est à double tranchant. Parce que ça veut aussi dire que tout le monde va être déçu. Si c'est pas son poulain qui devient Premier ministre. L'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai aussi. Est-ce qu'il vaut mieux être déçu par un candidat que déçu par un Premier ministre en exercice? J'entends plein de gens imaginer Mélenchon et se dire surtout pas. Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il s'en sentait capable, pour reprendre ses termes. Donc Jean-Luc Mélenchon ne veut pas être effacé du tableau dès maintenant. Il a raison, parce que ça mobilise son électorat et parce que ça le renforce au sein de l'étiage du nouveau Front populaire. Donc c'est normal que Jean-Luc Mélenchon souhaite qu'on garde son nom à l'esprit. On est en campagne. S'il déclare dès maintenant qu'il n'est pas candidat, ce sera une douche froide pour la France insoumise. Donc c'est normal que Jean-Luc Mélenchon se maintienne en lice. Ça va effrayer les électeurs PS. Ouais, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est à double tranchant, c'est toujours pareil, hein. Les électeurs PS vont être effarouchés par les propos d'LFI, les électeurs LFI vont être effarouchés par la candidature de Hollande. C'est en ça que cette union de la gauche, elle est singulière aussi. Il y a donc toujours une gauche plurielle, mais non irréconciliable. Oui, c'est ça. Plus singulière qu'en 36? Non, pas plus singulière qu'en 36. Quel impact sur les JO? Aucun. Il n'y a aucun impact sur les JO. Les Jeux Olympiques, ils sont organisés depuis des mois, des années, par des fonctionnaires de l'État qui s'occupent de tout ça, la préfecture, etc. Tous les plans sont faits, les systèmes de sécurisation sont prévus, les barrières sont déjà en place, ils sont en train de monter toutes les infrastructures, etc. Les JO, ils sont organisés, préparés. C'est pas l'instabilité gouvernementale à l'Assemblée n'aura pas d'impact sur la tenue des Jeux Olympiques. Aucun impact. C'est comme, je vous donnais l'exemple de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, elle est organisée par les fonctionnaires de l'éducation nationale. Elle n'est pas organisée par le ministre. Si tu changes de ministre avant la rentrée scolaire, 2 semaines avant la rentrée scolaire, ça bouleverse pas la rentrée scolaire. Les établissements sont prêts, les enseignants sont là, les machins, les chaises, les tables, les papiers, les crayons, les collectivités locales se sont occupées de tout et tout. Enfin, voilà, tout ça est organisé, tout ça est prévu. Il y a quand même une grosse machine de l'État qui prévoit les choses. Le budget 2024 n'est pas prêt. Tu confonds avec le budget 2025, qui sera voté à l'automne. Donc, il sera élaboré par le prochain gouvernement. Ça sent vraiment mauvais pour les prochaines présidentielles. Ben non, pourquoi? Rien n'est joué. Absolument rien n'est joué. Là, on assiste à un bouleversement politique. On va avoir un. A priori, moi, je pars du principe que Renaissance ne sera pas au gouvernement. Gabriel Attal va perdre son poste de Premier ministre parce qu'ils auront encore moins de majorité qu'ils ont aujourd'hui, déjà qu'ils n'en ont pas d'absolu. Voilà, on va avoir un nouveau Premier ministre, on va avoir un nouveau gouvernement. Rien n'est joué, il va y avoir de nouveaux camps politiques, de nouveaux rapports de force, de nouvelles personnalités vont émerger. Attal doit être tellement vénère. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Attal, il a été nommé en janvier. D'ailleurs, Gabriel Attal a essayé d'empêcher Emmanuel Macron de faire la dissolution, hein. On l'a appris, ça. Il y a des journalistes bien renseignés qui ont appris que Gabriel Attal, en réunion, avait proposé à Emmanuel Macron sa démission. En lui disant « Non, 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 ne dissous pas, je démissionne. » Et Macron lui a répondu « Non, tu restes et tu mènes la campagne. » Ce qu'il a fait. Il y aura deux candidatures NFP dans les circos des députés LFI et Vincé. Non, il n'y aura pas deux candidatures NFP, il n'y aura qu'une seule candidature de la France Insoumise investie du nouveau Front Populaire, et il y aura une candidature dissidente, des députés sortants donc, qui vont se maintenir, enfin qui vont maintenir leur candidature en se revendiquant du Front Populaire. Donc, effectivement, si tu regardes les affiches de campagne devant ton bureau de vote, ça peut te paraître un peu bizarre, parce qu'il y aura deux fois Front Populaire. Mais il y en a un qui est l'officiel et l'autre qui est le dissident. Il y a le Front Populaire et le nouveau Front Populaire, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Le nouveau Front Populaire ne va pas les empêcher d'utiliser leur image. En 2 semaines de campagne, ils pourront pas. En 2 semaines de campagne, ils pourront pas. Meyer Habib, il fait quoi? À ma connaissance, Meyer Habib est candidat à sa réélection dans sa circonscription des Français de l'étranger. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle dissolution en 2027 après les présidentielles? C'est possible, si, parce que là, les députés qui vont être élus pour 5 ans. Mais en réalité, vu qu'il y aura une présidentielle en 2027, le nouveau président de la République ou la nouvelle présidente de la République élue en 2027 aura potentiellement intérêt à dissoudre dès son élection, de manière à provoquer des élections législatives pour avoir une large majorité qui soutient sa présidence. C'est ce qui s'était passé en 1981, à l'élection de François Mitterrand. Quand Mitterrand a été élu, la majorité à l'Assemblée nationale était une majorité de droite qui soutenait Giscard. Bah, il a dissous l'Assemblée en disant les Français viennent de m'élire, je demande aux Français de me confier une majorité. Et il a refait le coup en 88, quand il a été réélu. Il a redissous. Hello Jean, quels sont tes pronostics sur la répartition des sièges? Il n'y aura également pas de majorité absolue, donc on repart sur du 49-3. Merci, bon stream. J'ai pas de pronostic sur la répartition des sièges. Je pense que le RN est le parti qui a le plus de chances d'avoir une majorité absolue, mais ce n'est pas gagné. Je pense que le Front Populaire peut avoir une majorité des sièges, mais c'est encore moins gagné. et je pense que les macronistes n'auront pas de majorité, c'est sûr. Je pense que ça va être la débandade chez les macronistes, que l'électorat de Macron est complètement déboussolé par cette dissolution, qu'ils ne comprennent pas. L'argumentaire « c'est moi ou le chaos », ça ne fonctionne pas puisque les gens se disent « mais en fait c'est toi le chaos », puisque c'est toi qui le déclenche le chaos avec cette dissolution. Donc voilà, donc moi je pense progression en nombre de sièges du RN, progression en nombre de sièges du Front Populaire, anciennement du NUPES, rétrécissement en nombre de sièges des macronistes, et je pense que le scénario le plus probable, c'est qu'aucun groupe n'ait de majorité absolue. Après, à voir quelles seront les majorités relatives. Est-ce qu'on parle de 5 sièges, 10 sièges, 40 sièges? C'est pas pareil. Qu'est-ce que gagne Macron dans tout ce bordel? Eh ben, c'est une bonne question, je n'en sais rien. Je pense que cette dissolution est une connerie, je pense que c'est une décision grave, parce qu'elle met l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et je vois pas ce qu'Emmanuel Macron a y gagné. Vous pouvez très bien continuer à gouverner pendant 3 ans. Rien à voir, mais j'aimerais bien savoir s'il existe un parti libertarien en France. Non, le libertarianisme, c'est extrêmement américain. En France, on a des libéraux qui n'ont pas vraiment de parti. Hein. Emmanuel Macron représente une partie du libéralisme, mais pas les ultra-libéraux. Les ultra-libéraux, ils ont existé dans les années 90. Hein. T'avais Alain Matelin, qui avait un parti. Il y a encore des associations, il y a contribuables associés par exemple, Alliance libérale aussi, je crois que ça existe encore. Mais c'est du libéralisme économique à la française, c'est pas du libertarianisme à l'américaine. Ils en sont où les LR? Je sais pas, je crois qu'il y a une soixantaine de candidatures qui ont été présentées avec l'assentiment du Rassemblement National. Donc c'est beaucoup moins que ce qui était prévu. On avait parlé de 100-120 circonscriptions LR, soutenues par le RN. Et là, visiblement, ils sont tombés sur 60-70. Est-ce qu'une démission de Macron est envisageable après les élections? C'est possible qu'Emmanuel Macron démissionne s'il se prend une claque monumentale aux élections. C'est possible. C'est possible qu'Emmanuel Macron, dans la foulée en fait de sa décision de dissoudre, il a pris une claque aux européennes, il dissout, il se reprend une claque aux législatives, il démissionne. J'ai envie de dire, c'est dans sa logique à lui. Mais j'y crois pas. Enfin, c'est une possibilité. Mais moi, j'y crois pas. Est-ce que Macron a le droit de se représenter s'il démissionne? Non. Il aura fait 2 mandats successifs. La Constitution limite à 2 mandats successifs. Donc il n'a pas le droit de se représenter à la prochaine présidentielle. Macron a perdu les pédales, on ne peut plus rien prévoir sérieusement avec lui. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, PMF, mets pas des grosses emotes dans le chat, c'est chiant. Il avait pas dit que dans tous les cas, il ne démissionnerait pas, peu importe qui gagne. Si, il l'a dit, mais c'est normal qu'il le dise. Emmanuel Macron ne peut pas, avant l'élection, dire aux Français « Si je suis battu à l'élection, je démissionne. » Parce que s'il fait ça, c'est une incitation à voter contre lui, à voter pour le RN. Donc, et c'est normal. Je dis, c'est de la même manière que Jean-Luc Mélenchon a raison de se maintenir dans le jeu du potentiel Premier ministre, Emmanuel Macron n'a pas intérêt à se retirer d'office du jeu de la présidence. Donc, c'est normal qu'il le dise. Et ça ne veut pas dire qu'il le pense vraiment. Qu'est-ce qui se passe s'il démissionne? Il se passe rien du tout, on fait une nouvelle élection. En un mois et demi, c'est plié. En un mois et demi, c'est plié. C'est tout. Et pendant ce temps-là, le président du Sénat assure l'intérim de la présidence de la République, ce qui veut rien dire, en fait. Il fait rien. De toute façon, il peut rien faire. Il n'a pas de majorité. Il n'a pas de gouvernement. L'intérim de la présidence, c'est vraiment pas ouf, hein. Il organise les élections, oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui empêche un président de dissoudre l'Assemblée nationale en boucle ? Rien. Rien n'empêche un président de dissoudre l'Assemblée nationale en boucle. Si ce n'est que... Il faut être lucide, si un président s'amuse à faire ça, il va perdre de sa popularité au fur et à mesure qu'il dissout. C'est-à-dire qu'à un moment, les Français, ils en ont ras-le-bol de l'instabilité gouvernementale, de l'impossibilité d'avancer, etc. Il y a un moment, le président, il va se prendre tôle sur tôle sur tôle aux élections, il va finir par démissionner. Donc c'est à manier avec précaution, la dissolution. C'est pas non plus un truc, c'est pas un sport de masse, hein. Oui, il y a un cooldown entre deux dissolutions d'un an, en plus. Tu dois attendre un an avant de redissoudre. Mais il est tout à fait possible, si dans l'hypothèse que je formule, on a une assemblée ingouvernable, parce que personne n'a de majorité, il est tout à fait possible que dans un an, il y ait une nouvelle dissolution. Hein. Emmanuel Macron, président de la République, sera contraint et forcé de constater qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, que c'est le bordel, que c'est impossible d'avancer, il va redissoudre. Qu'est-ce qui se passe si le président et le président du Sénat démissionnent en même temps ? Dans ce cas-là, c'est le gouvernement qui assure l'intérim de la présidence. Pas de reset cooldown s'il démissionne. Non. Pas de reset cooldown. Nouvelle élection présidentielle ne veut pas dire nouvelles élections législatives dans la foulée. Pas s'il y a le cooldown d'un an qui est en cours. Le nouveau président de la République devra attendre un an. Avant de redissoudre. Je crois, je suis même à peu près sûr, qu'une nouvelle élection d'un président de la République n'arrête pas le cooldown. Pas de reset cooldown s'il utilise son ulti non plus. T'as vu, la CGT appelle à voter nouveau Front Populaire. Oui, j'ai vu effectivement que la CGT... a appelé à voter pour le Front Populaire, ce qui est rare de la part d'une centrale syndicale qui, traditionnellement, usuellement, ne s'immisce pas dans les affaires électorales, dans le champ politique parlementaire. La CGT l'avait déjà fait le 21 avril 2002, suite au second tour entre Chirac et Jean-Marie Le Pen. Mais donc ça m'a surpris, mais en même temps ça m'a pas plus surpris que ça, parce que la CGT, par la voix de Sophie Binet, sa secrétaire générale, avait déjà déclaré que l'heure était grave, qu'il fallait faire front face à l'extrême droite. Donc cette prise de position de la CGT n'est pas si étonnante que ça en réalité. Est-ce qu'on peut interdire les sondages aux élections? Ça biaise le vote des gens. Les sondages sont déjà interdits dans les 24 heures qui précèdent l'élection. Et non, on peut pas interdire les sondages, ça fait partie de la liberté de la presse. Les journalistes ont le droit de sonder les Français, le lectorat, les électeurs. Ça fait partie du débat démocratique que de connaître les intentions. Moi, je suis contre la restriction de la liberté de la presse. Si Macron démissionne et qu'on revote en septembre, est-ce que ça redécale toutes les prochaines élections présidentielles en septembre? Oui. Oui. Que ferais-tu à la place de Macron? Déjà, je dissolverais pas. Ensuite, je démissionnerai. Les agences de notation menacent de dégrader la note de la France si les extrêmes passent. Oui, c'est pas étonnant des agences de notation, compte tenu des programmes qui sont présentés par les extrêmes. Je suppose qu'ils mettent le nouveau Front populaire dans les extrêmes. Effectivement, le nouveau Front populaire ambitionne de mener une politique de la demande, qui va coûter cher aux dépenses publiques, qui va augmenter les impôts sur les plus riches et sur les entreprises, grévant ainsi la compétitivité française. Donc potentiellement la croissance, donc potentiellement augmentant les déficits publics, donc augmentant les intérêts de la dette. Voilà, c'est un calcul vite fait. Et le Rassemblement national propose, alors ça dépend qui parle et à quel moment, parce que c'est un peu le Rassemblement national, il retourne sa veste quand même assez souvent, mais il propose de revenir sur la réforme des retraites, il propose d'abaisser la TVA sur l'énergie, donc de baisser les recettes fiscales de l'État. Voilà. Donc le Premier ministre, dans 3 semaines, va probablement effectivement avoir un énorme dossier sur son bureau, c'est le budget. Budget rectificatif. Agence de notation qui flippe, intérêt de la dette qui augmente, croissance qui stagne, inflation qui se réduit. Ça déjà c'est une bonne nouvelle, c'est peut-être la seule bonne nouvelle qu'il aura dans son bureau. L'inflation est en passe d'atteindre un plateau. Et si c'est un Premier ministre Front populaire, il devra, puisqu'il s'est engagé à le faire, mettre en œuvre des décisions radicales et chères. Dès le début. Qui regarde ces notes? Les personnes qui regardent les notes des agences de notation, ce sont les prêteurs, ce sont les personnes qui prêtent de l'argent à la France. Vous savez que la France emprunte de l'argent toute la journée, en permanence. Il y a des émissions de titres de dette assimilées au Trésor. Et les prêteurs prêtent aux entreprises, aux États, aux ménages, etc., indifféremment, en fonction des notations, de la capacité à rembourser. La France a une note excellente historiquement. La France est un très très bon pays, très solide, qui a une signature fiable, qui ne fait pas peur aux investisseurs. C'est pour ça que la France emprunte à des taux d'emprunt relativement faibles par rapport à d'autres pays qui galèrent. Je pense au Portugal, je pense à l'Italie, je pense à la Grèce, qui eux ont un peu moins la confiance des investisseurs. Merci beaucoup pour le raid. J'ai pas vu qui c'était. Ah, bah c'est Sam! Merci Sam, ça fait plaisir. Merci pour ton raid. On est en train de parler de la situation politique en France. Vous savez que c'est un peu le bordel. Vous avez vu dans les revues de presse de Sam que c'est chaud en ce moment. Il se passe 2-3 trucs, quoi. Voilà, il y a des élections dans 20 jours. Il y a de l'ambiance à l'Assemblée nationale. Enfin, non, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Et donc on était en train de discuter de ça. Et je parlais des agences de notation qui flippent de la situation française et qui ont peur de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national ou du nouveau Front populaire. 12 jours, ça avance vite. C'est vrai que ça avance vite. T'as l'air tout déprimé. Ah non, je suis pas déprimé. Je suis tout content de discuter avec vous. C'est vrai, j'ai l'air déprimé. Je suis désolé. C'est vrai que par rapport à Sam, qui est lumineux, moi je fais tristoun. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Est-ce que tu as été contacté par le stream populaire pour signer la tribune? Oui, j'ai été contacté par le stream populaire. Alors j'ai raté le premier train des signataires de la tribune parce que j'étais pas là. Parce que j'ai pas lu mes mails ni mes textos. J'ai reçu énormément de messages ces dernières 72 heures. Et c'est un peu passé à la trappe. Et quand j'ai vu la tribune, j'ai fait hop là, pourquoi j'ai pas signé ça? Et j'ai vu dans mes textos que j'avais complètement raté le texto. C'est de ma faute, donc je l'ai signé ce matin. Donc je fais partie de la deuxième vague de signataires de la tribune. C'est quoi? C'est une tribune dans Mediapart signée par plus de 200 streamers et streameuses qui appellent à soutenir le Front Populaire. Diminution de salaire des députés, surtout ceux qui sont peu présents. Personne propose ça. Est-ce que tu as été contacté par le Front Populaire pour promouvoir leur parti moyennant argent? Bien sûr, évidemment. Je sais pas s'il y a des gens qui croient vraiment que ça marche ce truc-là. Parce que nous, on voit passer des délires sur Twitter, genre des gens qui disent ouais, les influenceurs, ils sont payés pour soutenir le Front Populaire. Et nous, ça nous fait hurler de rire, mais on se demande si ça se trouve, il y a des gens qui le croient premier degré. Si ça se trouve, il y a de l'argent et tout. Tu croyais qu'ils ont de l'argent, le Front Populaire? Les mecs sont tous en train de faire des emprunts à la banque pour financer leur campagne de 12 jours, là. Il n'y a pas un euro dans les caisses. NordVPN, feed Front Populaire. Il y a une rumeur qui a été lancée par Jerem Star là-dessus aujourd'hui. Écoutez, si vos sources c'est Jerem Star, je ne peux plus rien faire pour vous. Allez, je prends mon antidépresseur. Il est 20h. C'est l'heure de ma pilule. Si Jerem Star le dit, moi je crois. Oui, t'as raison. Est-ce que le Front Populaire pourra appliquer les mesures qu'il annonce? Ah bah c'est ce dont on était en train de discuter. C'est ce dont on était en train de discuter justement de la difficulté, dans un contexte économique tendu, de mener des réformes ambitieuses en matière de dépenses publiques. Alors, le Front Populaire se veut rassurant en disant qu'ils vont augmenter les recettes, notamment par l'augmentation des impôts sur les plus riches, le rétablissement d'un ISF, les 14 tranches d'imposition sur le revenu, et potentiellement la réduction des aides aux entreprises. Donc bref, il y a des marges de manœuvre budgétaires que trouvera le Front Populaire s'il arrive au pouvoir. Pour autant, les mesures qu'il annonce sont chères. L'école gratuite, l'augmentation du SMIC, le renforcement des services publics, tout ça va avoir un coût non négligeable. Donc, j'écoutais un économiste cet après-midi sur France Info qui disait de manière très juste, l'important c'est le séquençage. C'est-à-dire qu'un programme politique, c'est jamais appliqué d'une traite dès la première année, ou dans les 100 premiers jours, c'est pas vrai. On se donne du temps de mener des politiques. On vote des projections. On fait des budgets programmatiques. On organise les choses pour des montées en charge. C'est comme le retour hypothétique de la réforme de la retraite à 60 ans. Ça se fera pas en claquant des doigts. Ça va prendre plusieurs années, ce sera dégressif, ça, le temps que les choses se fassent, etc. Merci beaucoup, Fracax, qui offre 5 subs au chat. Le Front Populaire a parlé de virer le SNU. Oui, le SNU va être viré, mais le SNI, c'est que dalle en termes de budget. Hein. Je crois que c'est 1 milliard et des brouettes. C'est rien. Enfin, c'est pas ça qui fait des économies. C'est 2 milliards, le SNU? Je crois que c'était 1 milliard 7. J'avais 1 milliard 7 en mémoire, mais ça devait être la première année, vous avez peut-être raison. Est-ce que leurs mesures peuvent relancer l'économie? Alors la volonté du nouveau Front Populaire, c'est de mener une politique de la demande, donc qui suscite la consommation, et donc la reprise économique par la demande. Ça peut marcher, oui. Ça peut marcher si le contexte économique est favorable. Le Front populaire va faire des économies sur les retraites, plus gros poste de dépenses publiques. Ah non, il va pas faire d'économies sur les retraites, le nouveau Front populaire, hein. Il va augmenter les dépenses de retraite. Relance keynésienne, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le principe d'une relance keynésienne. Tu penses quoi de François Hollande? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je pense que la candidature de François Hollande est une bonne nouvelle pour le Front populaire pour une seule et unique raison, c'est que ça nique l'argument d'Emmanuel Macron qui consiste à vilipender le Front populaire en disant que c'est un truc d'extrême gauche. Le fait qu'il y ait François Hollande candidat Front populaire, ça défonce cet argument. Voilà. Tout comme Lionel Jospin qui n'est pas candidat mais qui a dit hier matin sur France Inter qu'il était pour le Front populaire. Après, il y a Poutou. Alors justement, il a été interrogé là-dessus, Lionel Jospin. Lionel Jospin, il a été interrogé sur, alors ouais, mais il y a Poutou, vous soutenez Poutou, etc. Et il a dit, mais attendez, Poutou, c'est un candidat dans une circonscription qu'il n'est même pas sûr de gagner, loin de là. C'est quand même que dalle dans l'équilibre des forces du nouveau Front populaire. Ça s'appelle un symbole. Oui, c'est un symbole, mais un symbole qu'on peut tout à fait argumenter en le remettant à sa place de seule candidature. Non, c'est une candidature dans une circonscription, il y en a 577, il y a des gens très différents de toute la gauche, etc. Hollande, Premier ministre de Macron, ce serait rigolo. Oui. Ça, clairement, je suis d'accord avec toi. Moi, ça me ferait hurler de rire que Hollande devienne Premier ministre de Macron. Mais je pense que je rigolerai pendant 2 minutes. Après, ça m'amusera beaucoup moins. C'est pas la même chose pour Hollande. Si, 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 c'est la même chose pour Hollande. Je veux dire, le nouveau Front populaire n'est pas hollandiste. Il suffit de regarder le programme. Viens de vous expliquer que c'était une politique de la demande. Hollande, il a assumé une politique de l'offre. Bon, bah voilà. Donc. Hollande a peut-être fait sa transi. Bah, faudrait qu'il nous l'explique, François Hollande, sa transi. Moi, je suis très curieux. Tu parles depuis tout à l'heure de politique d'offre et de demande, ça veut dire quoi concrètement? Je suis un peu perdu. T'inquiète pas. Dans la relance économique, il y a deux méthodes traditionnelles, habituelles en économie, qu'on appelle la politique de l'offre et la politique de la demande. La politique de l'offre consiste à soutenir les entreprises, à agir sur le coût du travail en baissant les cotisations, en baissant les impôts sur les entreprises, pour susciter l'innovation, susciter l'activité, susciter l'embauche et l'emploi, et ainsi faire croître l'économie. De l'autre côté, tu as une autre stratégie qui s'appelle la stratégie de la demande, qui consiste à non pas agir sur les entreprises, mais à agir sur les consommateurs, sur les personnes qui achètent, donc en augmentant les salaires des personnes pour leur permettre d'acheter plus. Comme les personnes vont acheter plus, ils vont demander plus aux entreprises qui vont donc augmenter leur production. Donc ça va susciter la croissance. Voilà à très grands traits les deux stratégies, offre et demande, qui existent en économie. Merci François Langlais. Quelle Quel est le risque pour les PME, ce genre de stratégie proposée par le nouveau Front Populaire? Alors le risque pour les PME, les PME sont le plus grand nombre d'entreprises en France, ce sont des PME. Pensez à votre boucher, charcutier, pensez à votre boulanger, pensez à votre poissonnier, les commerçants, les restaurateurs, ce sont des PME, petites et moyennes entreprises. Ils ont en général des trésoreries assez courtes, ils n'ont pas énormément de pognon de côté, ils sont un peu à flux tendu. Et ils risquent de ne pas avoir les moyens de payer les salaires augmentés. Donc, le risque, c'est que des entreprises ferment à cause de l'augmentation des salaires, parce qu'ils n'ont pas les moyens de respecter la loi et l'augmentation des salaires. Ou alors, l'autre risque qui existe, c'est que ces entreprises, ces PME, pour payer les salaires augmentés, décident d'augmenter les prix. Donc que votre baguette de pain soit plus chère. Votre boulanger augmente la baguette de pain, non pas pour le plaisir, non pas pour se faire du pognon, mais pour simplement payer ses salariés. C'est l'autre risque d'avoir une boucle inflation-prix. Inflation-salaire. Ou de licencier. Ou de licencier pour celles qui le peuvent. C'est ça le risque. Alors, du coup, le gouvernement, l'État, a intérêt à mettre en place des stratégies pour éviter ces situations, des stratégies d'aide. Des stratégies d'aide pour soulager les entreprises, pour leur permettre de payer les salaires, de ne pas mettre la clé sous la porte. Et donc là, on peut imaginer plein de solutions, de baisse des charges locatives, de baisse des charges d'énergie, de baisse des charges sur les salaires, mais enfin, ce n'est pas le but. D'augmentation des primes, c'est la stratégie de Gabriel Attal. Gabriel Attal propose de passer la prime Macron de 600 à 1000 euros, je crois. Des baisses de dividendes. Les PME, elles n'en versent pas beaucoup des dividendes. Hein. C'est pas elles les championnes des dividendes, c'est plutôt les grands groupes, les grandes entreprises, qui elles ont les moyens, effectivement, d'encaisser les augmentations de salaire. Ce qui peut poser des questions sur la compétitivité, mais ça dépend des marges qu'elles se mettent dans la poche. La prime Macron, ça coûte une blinde à la Sécu. Non, ça ne coûte pas d'argent à la Sécu, c'est un manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale, puisque c'est une prime qui est désocialisée. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cotisation dessus. Donc c'est plus facile de les verser, mais en échange de quoi, les différentes caisses de la sécurité sociale ont un manque à gagner, quoi. Elles ne font pas rentrer de cotisation. Planche à billets, quantitative easing, inflation, euro numérique, entrée dans la dictature. Ça va. C'est une perte car les entreprises remplacent des primes exceptionnelles par des primes Macron. Ah oui, bah ça dépend en tout cas de la politique salariale dans les entreprises. Effectivement, s'il y avait déjà des primes qui étaient versées par le passé, c'est souvent devenu la prime Macron, oui. Un commissaire politique par entreprise. Jamais eu de prime en 20 ans de carrière. Ah, désolé pour toi. C'est parce que t'as pas bien bossé? Ou parce que ton patron est un connard? Les deux sont possibles. Est-ce que Bardella peut cumuler Strasbourg et Matignon? Non, non, il peut pas, il sera obligé de démissionner de son mandat de député européen. Mmh. Il est déjà pas à Strasbourg, c'est vrai. Est-ce que tu penses que Bruno Rejepoty a poussé Macron à dissoudre pour trahir au profit du RN? Non, je pense pas que le but de Bruno Rejepoty, qui est conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, soit de trahir pour aller au RN. Il sert Macron depuis 2017, c'est un vieux compagnon de route. Non, non. Mais je pense que oui, Bruno Rejepoty fait partie des conseillers qui ont suggéré à Macron la dissolution. Après, Macron a été très clair, c'est une décision qu'il a prise seul. Ça a même été rappelé par Bruno Le Maire, qui a déclaré c'est la décision d'un homme seul. Ce qui est une critique assez rare de la part d'un ministre de l'économie pour son président de la République. En gros, il n'était pas d'accord, Bruno Le Maire, pour la dissolution. Il va être viré, lui. Ah bah apparemment, Emmanuel Macron lui a soufflé dans les bronches en réunion de cabinet assez vénère, ouais. Petite question, en ce qui concerne Marion Maréchal, elle est remplacée par un autre membre du parti à Zemmour au Parlement européen? Bah non, pourquoi elle serait remplacée? Elle a été élue. Elle a été élue députée européenne. Visiblement, elle est en train de s'engueuler avec Éric Zemmour, mais elle reste députée européenne. C'est quoi un conseiller mémoire? Emmanuel Macron a un certain nombre de conseillers sur différentes thématiques. Il a un conseiller économie, un conseiller école, un conseiller sport, etc. Enfin bref, sur les différentes thématiques. Et il a un conseiller mémoire qui s'occupe des dossiers de la mémoire, c'est-à-dire les commémorations, 14 juillet. Là aujourd'hui, c'est les commémorations du 18 juin sur l'île-Dieu. Commémoration d'Oradour-sur-Glane, commémoration de la guerre de 14-18. Il y a aussi tout le travail sur la mémoire de la guerre en Algérie qu'il a lancé, qui est un gros dossier. Voilà, c'est ça, c'est son conseiller mémoire qui s'occupe des dossiers mémoire. Le Front populaire s'est-il positionné sur le nucléaire? Non. Pas à ma connaissance. Île-de-Sein, pas Île-Dieu. Non, pardon, Île-de-Sein, Île-de-Sein, c'est pas l'Île-Dieu, c'est l'Île-de-Sein le 18 juin. Pardon. Île-Dieu, on en parlait hier, c'est là où est enterré Philippe Pétain. C'est quoi la stratégie derrière l'investiture de Hollande? Je pense que Hollande veut revenir en politique. Je pense que Hollande veut reprendre le Parti socialiste. Et ça commence par devenir député, siéger à l'Assemblée nationale. Il s'est auto-investi Hollande. Oui, en même temps, c'est pas compliqué en Corrèze. Quand tu t'appelles François Hollande, c'est pas compliqué de t'investir. C'est rare qu'un ancien président de la République puisse pas se présenter là où il veut. Enfin, surtout dans son territoire d'élection historique. Si demain Nicolas Sarkozy se présentait à Neuilly, t'inquiète qu'il serait investi par LR, hein. Ah, quoique, je suis pas sûr. Vu qu'il a rejoint Macron. Il est connu là-bas, pourquoi il n'a pas fait plus tôt? Il attendait le bon moment. Oui, c'est ça, il attendait le bon moment, il se sentait pas prêt, il voulait pas le faire en 2022. En même temps, après le score très décevant de Anne Hidalgo, c'était pas le moment de se présenter. Hollande, son seul objectif, c'est de récupérer le scooter 125 de l'Élysée pour aller voir sa maîtresse à Paris. Vous savez que le scooter de Hollande, c'est une pièce de collection qui appartient à un musée. Il y a un musée automobile qui a que des voitures d'exception. et qui a acheté le scooter de Hollande. Je trouve ça très drôle. Acheté pour 20 000 balles, ouais. Ouais, il a été vendu aux enchères il n'y a pas longtemps. Alors du coup, c'est peut-être le musée qui l'a vendu, ou alors c'est un musée qui l'a acheté, je sais plus dans quel sens ça s'est fait. Un musée privé, ouais, je crois, un musée privé. Remarque, c'est vrai que c'est collector. Ah bah, c'est un monument de l'histoire de France. Il est à la Prestige Collection à Jalès, dans le 49. Merci Michael pour cette précision. Voilà, comme ça vous le savez. Vous saurez où vous pouvez aller le visiter. Qui devra proposer le nouveau gouvernement si le nouveau Front Populaire gagne? Ce sera la tâche qui incombera au Premier ministre, qui devra être choisi par le nouveau Front Populaire. Et qui devra, si d'aventure le nouveau Front Populaire gagne, le Premier ministre issu de ses rangs devra composer un gouvernement en respectant les différentes sensibilités du nouveau Front Populaire. Donc il y aura des ministres LFI, des ministres PS, des ministres communistes et des ministres écolos. Et place publique. Voilà. Ce sera Mélenchon, probablement pas. Et ce sera pas Philippe Poutou non plus. Pourquoi le Front Populaire choisirait le Premier ministre? Parce qu'ils auraient, remporté les élections législatives en ayant une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Auquel cas, il leur reviendra de choisir le Premier ministre et le gouvernement. Qu'est-ce que tu penses du parti Equinox? Ah, le parti Equinox, c'est pas le truc qui a été monté là cette année pour les européennes et qui casse les couilles à tout le monde sur Internet? C'est à chaque fois qu'il y a un nouveau parti qui pop, ils peuvent pas s'empêcher de faire du zèle. Et c'est un parti qui a été créé par des proches de la pensée de Jean-Marc Jancovici, c'est ça? C'est les gens Cozouz. C'est les gens Cozouz qui se sont organisés en parti politique. Ouais, c'est bien ça. Les technosolutionnistes. Ouais. Vous savez, c'est mon sacerdoce, mais c'est aussi ma chance. On me contacte beaucoup sur Internet pour me parler de trucs. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau parti politique qui pop, je reçois des tonnes de mails, de mentions, de notifications, etc. de gens qui me disent hey, regardez, regarde, c'est vachement bien ce qu'on fait et tout. Ça fait 10 ans que ça m'arrive. Et au moment des gilets jaunes, je me souviens qu'au moment des gilets jaunes, il y avait une profusion de partis gilets jaunes. Il y en avait un par semaine. Un nouveau parti gilet jaune pour le RIC, pour la démission de Macron et tout, qui se montait et qui m'envoyait des mails et tout, je vais être invité dans tes émissions et tout. Et ça continue, il y a tout le temps des partis qui pop. Vous connaissez l'UPR, voilà, pour ceux qui se souviennent de la blague sur l'UPR, c'était exactement ça, quand l'UPR a popé, il pétait les burnes à tout le monde. Il s'incrustait dans toutes les conversations sur Twitter. Il dirait bonjour, vous connaissez l'UPR? Voilà. Et donc là, le dernier en date, effectivement, c'est Equinox. Alors il y a aussi eu des partis jeunes, des partis qui veulent représenter les jeunes à la présidentielle à chaque fois, putain. Ça date de 2007. Je me souviens qu'en 2007, il y avait un candidat lycéen. À chaque présidentielle, ils nous font le coup. Non, non, c'est pas les jeunes avec bidule. Non, 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 c'est pas les jeunes avec bidule. C'est genre la République jeune, quoi. C'est un parti de jeunes qui veulent présenter un candidat jeune. Bref. Chaque fois, c'est des aventures qui durent un an et demi et qui crèvent. Il y avait les zèbres aussi, pour ceux qui s'en souviennent d'Alexandre Jardin. Il
Il y avait un espèce de parti crypto-macroniste qui est né en 2012, qui était emmené par Benoît Paire. Je sais plus comment ça s'appelait ce truc-là. Il y avait Akira, ouais, je me souviens d'Akira. Benoît Paire, le joueur de tennis. Non, 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 ça, alors je me trompe peut-être, ça devait être Bruno Paire. Paire. Denis Paire. Denis Paire. Je connais pas son prénom. J'ai complètement oublié son prénom. Son nom de famille, c'est Paire. Et ce mec-là, il avait lancé un parti qui était un peu le macronisme avant l'heure. C'était un parti centriste libéral qui promettait de faire la révolution et de changer la politique à tout jamais. Il y avait le DAR, le parti de Patrick Sébastien. Ouais, je m'en souviens, le DAR. C'était Nous Citoyens, le truc de Denis Paire. Bien vu, bien joué, Cladus. Comment tu vas, mon vieux? Bien joué, c'est exactement ça. C'était Nous Citoyens. Y avait Dieudonné aussi qui avait lancé son parti antisémite, ouais. Ouais, qui avait présenté une liste antisémite aux européennes en 2019, je crois. Cette année aussi? Eh ben putain. Il y a Volt aussi, le parti Volt, ouais, qui est assez récent. Il y avait France Libre en 2024 avec Francis Lalanne. Francis Lalanne, il avait lancé son parti au moment des Gilets jaunes. Y a le parti pirate, oui, bien sûr, le parti pirate. Il y avait Lalanne et Dieudonné aux européennes cette année. Oh, Lalanne s'est vautré dans l'alliance avec Dieudonné. Quelle tristesse. Tant qu'à faire. Lalanne s'est vautré il y a bien longtemps, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il a lâché la rampe il y a un bout de temps, ouais, c'est vrai. Tu savais pas? Non, 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 ça m'avait échappé. Je t'avoue que ça m'avait échappé. Ça m'avait complètement échappé. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a des nouveaux partis qui pop régulièrement. Et que j'ai le plaisir de les recevoir dans ma boîte mail et dans mes mentions. On vit dans une saucisse. Le RN et NFP ont un nombre de députés similaire. Macron pourra choisir la cohabitation entre les deux. Non! Non, 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 non. Non, si le RN et le nouveau Front Populaire ont un nombre de députés similaires, ils n'arriveront pas à gouverner. Ils n'arriveront pas à gouverner. Il y aura un blocage institutionnel. Il y aura pas de gouvernement ou un gouvernement. Un gouvernement technocratique. Et du coup, on fait comment? Mais du coup, on fait pas, en fait. Du coup, on fait pas. On aura des gouvernements de technocrates qui ne prendront pas de grandes décisions, parce qu'ils ne pourront pas prendre de grandes décisions. Il n'y aura pas de grandes réformes, il n'y aura pas de grands plans. Il y aura des tentatives de faire voter des lois pour expédier les affaires courantes, et ce sera compliqué. Comme en Belgique ou en Italie. Oui, c'est ça, comme en Belgique. Donc ce sera qui le Premier ministre? Peu importe, ce sera quelqu'un de peu important. Ce ne sera pas une grande figure. Du coup, déjà, Macron arrêtera sa politique, c'est une victoire en soi. C'est absolument pas une victoire, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la politique de Macron, elle continuera à s'appliquer. C'est forcément une défaite. Bah, c'est une situation qui est peu enviable. C'est une situation qui ne satisfera personne. Absolument personne. Voilà. Faut bien avoir ça en esprit. Ce serait un truc qui va gonfler tout le monde, mais faute de mieux, avec l'impossibilité pour n'importe quel camp d'avoir une majorité, ça va rester comme ça. Comment on en sort de cette situation? Avec de nouvelles élections, un an plus tard? En espérant qu'il y ait une majorité qui se dégage? Tout n'est pas à jeter dans la politique de Macron. La suppression de la taxe d'habitation et le plein emploi, on est bien content. Où est-ce que tu vois un plein emploi, toi? Avec les réformes de l'assurance chômage successives. Tu peux expliquer la Belgique? La Belgique, il y a quelques années, a connu une situation similaire, avec un parlement extrêmement divisé, aucune majorité nulle part, et donc une succession pendant plusieurs années de gouvernements technocratiques, qui ne prenaient aucune décision. Et personne n'était content. Et de mémoire, ils avaient fini, à force de réélection, par faire un espèce de gouvernement d'union, pour essayer quand même d'avancer. Les Belges avaient l'air contents. Pas du tout. Pas du tout. Tu demandes aux fonctionnaires belges, tu demandes aux entreprises belges, aux salariés belges, personne n'était content. Tout le monde avait des récriminations, tout le monde voulait, des choses. Ça, c'est vraiment l'image d'Épinal de l'extérieur, où depuis la France, on se dit, ah bah les Belges, ils sont bien contents, ils n'ont pas de gouvernement, ça se passe bien. Ça se passe pas bien du tout. Pourquoi technocratique? J'utilise le mot technocratique par opposition au mot politique. C'est-à-dire que un gouvernement politique, c'est un gouvernement qui, avec une majorité, quelle qu'elle soit, va dans une direction, mène une politique publique, prend des risques, engage le pays dans des réformes, des changements, des évolutions, des progressions, ou des reculades d'ailleurs, mais qui va quelque part, quoi. Un gouvernement technocratique, c'est un gouvernement de hauts fonctionnaires qui ne prennent pas de décisions, de grandes décisions. Un gouvernement qui expédie les affaires courantes, quoi. Suppression de la taxe d'habitation, de la poudre aux yeux. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. On la paye autrement. Bah non, 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 non. Non, non, enfin, Emmanuel Macron, il a mené une politique de baisse des impôts sur les ménages, hein. Avec des conséquences dont on peut discuter. Je dis pas que c'est une bonne politique, mais suppression de la taxe d'habitation, suppression de la redevance télé. Sur les ménages riches. Ah non. Non, la suppression de la taxe d'habitation, c'est pas sur les ménages riches. Justement, les riches, c'est les seuls qui continuent à les payer, à la payer. Impôt sur le revenu a baissé cette année, ouais. C'est déjà arrivé sous la Ve République, ce genre de gouvernement technocratique. Sous la Ve République, non. La Ve République n'a pas connu de blocage institutionnel total. Il y a eu une majorité relative en 88. La cohabitation, c'était pas un blocage. La cohabitation, c'était pas un blocage, hein. Il y avait un gouvernement. Puis autant dire que c'est un gouvernement qui agissait, hein. Le gouvernement de Chirac en 86. Il savait où il allait, hein. Et pareil pour le gouvernement de Lionel Jospin en 97, hein. Il a mis en place une politique de gauche. En cas de cohabitation, à quoi sert le président? Pas à grand-chose. Le président de la République perd son pouvoir d'initiative, son pouvoir d'influence sur le gouvernement par définition, puisqu'il n'a plus le gouvernement à sa botte. Le président de la République se concentre sur ce qu'on appelle les domaines réservés. C'est notamment les affaires étrangères, la diplomatie, puisqu'il représente la France. Donc il doit y avoir une négociation nécessairement entre le gouvernement et lui sur ces sujets-là. L'armée, dont il est le chef. Donc il a quand même un regard sur l'engagement des troupes sur des théâtres d'opération, etc. Il s'occupe de. Il a un pouvoir de nomination de quelques hauts dirigeants, des membres du Conseil constitutionnel par exemple, des trucs comme ça. C'est pas ouf. Il peut faire des commémorations, et c'est ça, il peut faire des commémorations. Il déjeune chaque lundi avec le Premier ministre pour faire le point, un peu comme le Premier ministre anglais va rencontrer la reine d'Angleterre une fois par semaine. Pareil. C'est le déjeuner du lundi. Oui, le roi, pardon, le roi, c'est un roi maintenant. Pardon, 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 j'ai oublié. Il peut aussi emmerder le Premier ministre en refusant de signer les ordonnances. Très bon exemple. Il peut faire chier le gouvernement, il peut essayer. Je me souviens d'un truc qui était lunaire, mais très très drôle. C'était quand Jacques Chirac était Premier ministre, Mitterrand était président de la République. Et Jacques Chirac avait des manifestations étudiantes et lycéennes contre lui. Je ne sais plus sur quel projet de loi c'était, mais il y avait des grandes manifestations contre Jacques Chirac, et notamment des manifestations lycéennes. Et il y a une archive télé absolument géniale. Non, non, c'est pas le CPE. Non, non, le CPE, c'était 2005. Je vous parle de l'époque des années 80. Vous parle des années 80. Mitterrand était président. En 2005, il était mort, Mitterrand, depuis longtemps. Et donc, bref, il y avait des manifs lycéennes dans Paris, et il y a une archive. C'était la loi de Vaquet, sans doute, hein, en 86, ouais. Il y a une archive télé où on voit François Mitterrand aller à la rencontre des manifestants lycéens. T'as le fucking président de la République qui soutient en douce les lycéens qui foutent le zbeul contre le Premier ministre de droite. Et alors tu te dis, mais c'est délicieux, c'est génial. Mitterrand, le super troll. Vraiment faire chier le Premier ministre. Il va à la rencontre des lycéens pour papoter, ça va, petit bain de foule. Voilà. Donc le Premier ministre en cohabitation, il fait chier. Alors le Premier ministre en cohabitation, il a aussi une particularité, hein. Pardon, le président de la République. En cohabitation, il a aussi une particularité, parfois. C'est qu'il est le chef de l'opposition. Vous vous doutez bien que François Mitterrand à l'Élysée, il n'était pas tout seul. Il avait un énorme groupe de députés socialistes derrière lui, pour faire chier Chirac. Et donc, on avait cette situation ubuesque, où le Premier ministre allait déjeuner à l'Élysée chaque lundi pour faire le point sur la politique de la nation avec le président de la République. Et le lundi soir, il y avait le chef de l'opposition qui venait à l'Élysée discrètement pour aller prendre ses ordres. C'était Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, qui allait comme ça à l'Élysée discuter avec Mitterrand sur c'est quoi la marche à suivre, sur quoi on va le faire chier, comment est-ce qu'on va le bloquer, comment on va l'emmerder. En 1997, rebelote. Lionel Jospin est Premier ministre, Jacques Chirac est président de la République. On sait bien que Jacques Chirac passait son temps au téléphone avec les gens du RPR et de l'UMP pour casser les couilles à Jospin et à la gauche. C'est pour ça qu'en l'an 2000, l'UMP et le PS se sont dit, bon, on est tous d'accord pour dire que la cohabitation, c'est de la merde. On l'a vécu de l'intérieur, on sait ce que c'est. Il faut qu'on mette fin à la cohabitation. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le quinquennat. La réforme du quinquennat visait à mettre fin aux cohabitations. En synchronisant les scrutins présidentiels et législatifs, en organisant la législative dans la foulée de la présidentielle, pour que le président de la République élu bénéficie d'un élan et soit confirmé à l'Assemblée, et qu'on se retrouve dans une situation où le président préside une majorité qui lui est favorable, quel que soit le président, à droite ou à gauche. La morale de l'histoire, c'est que si vous regardez, ça fait 24 ans que ça marche. Ça fait 24 ans qu'on a des présidents de la République qui ont une majorité. Jacques Chirac, en 2002, avait une majorité. Il avait Dominique de Villepin, puis Jean-Pierre Raffarin en Premier ministre. Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012, il avait François Fillon, Premier ministre. François Hollande, de 2012 à 2017, il avait Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et machin, Premier ministre. Cazeneuve, merci. Merci à vous. Heureusement que vous êtes au taquet. Emmanuel Macron, il avait Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, qui était de sa couleur. Donc, le quinquennat a porté ses fruits. De ce point de vue-là. Et là, Emmanuel Macron décide de mettre de l'ambiance avec sa dissolution surprise, qui nous dirige tout droit vers une nouvelle cohabitation. Du coup, resynchronisation des législatives où en 2027 on devra les réélire. Si le président de la République en 2027 qui est élu, le ou la, qui est élu n'est pas de la majorité de l'Assemblée nationale, il aura tout intérêt à dissoudre l'Assemblée de manière à non seulement resynchroniser, mais en plus avoir une assemblée qui lui correspond. C'est comme ça que ça devrait se passer. Après les élections législatives, va-t-il y avoir aussitôt les vacances parlementaires? Oh non, je ne pense pas. Je pense que le Parlement va être réuni en session extraordinaire pendant tout l'été. Je pense, hein. Parce que quel que soit le prochain gouvernement, il aura quand même du pain sur la planche, hein. Il va y avoir besoin de faire un budget, il va y avoir besoin de voter des trucs et tout. Enfin, ça va pas chômer, hein. Même pendant les JO, ouais, même pendant les JO, ouais. Ça te fait peur, le Front populaire? Ça me ferait peur, le Front populaire. Non, je ne fais pas partie des personnes effrayées par le Front populaire, non. Vachement plus effrayées par l'extrême droite. Est-ce que c'est possible en cas de majorité relative du RN à l'Assemblée, Macron s'allie au Front Populaire a posteriori et nomme un Premier ministre de gauche? Oui, c'est possible. M'étonnerait, mais possible. Macron peut-il se faire destituer par le RN et le nouveau Front Populaire si ces deux-là s'entendent? Non, parce que la destitution du président de la République, ça correspond à une procédure très précise et sur des et il y a quand même un parquet qui est investi d'une mission d'enquête. Donc c'est pas, enfin, c'est pas pour des raisons politiques en fait. Il faut vraiment qu'il y ait des crimes ou des délits qui aient été commis. On en est où pour Baxit? J'ai pas fait le point avec mes coproducteurs, je ne sais pas, il faut qu'on s'appelle pour savoir où on en est. Pourquoi personne ne propose une dose de retraite par capitalisation? Il y a des gens qui proposent ça. Pourquoi vous dites personne propose? Renseignez-vous, il y a des gens qui proposent ça. Les Républicains, une partie des Républicains, proposent une partie de la retraite par capitalisation. Ils l'ont proposé à l'époque de la réforme des retraites. Une motion de censure qui passe ne destitue pas le président. Ah non, 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 non. Une motion de censure n'a rien à voir avec le président de la République. Ah non, une motion de censure, ça censure le gouvernement, pas le président. Ah c'est bon, vous avez eu un mail pour confirmer les deux émissions ce soir? Eh bah très bonne nouvelle. Est-ce que Braun Pivet est impacté par la dissolution et un éventuel changement de majorité? Ah bah oui. Yaël Braun-Pivet, son mandat a pris fin avec la dissolution, par définition. Et s'il y a un changement de majorité, il y aura un changement de président de l'Assemblée, c'est sûr. Elle ne va pas être réélue par le Front Populaire ou par le RN. Est-ce qu'en cas de majorité relative du RN, on pourrait avoir un blocage à l'Assemblée lors du vote de confiance? Bah, s'ils n'ont qu'une majorité relative, il y a un risque effectivement que les autres députés votent majoritairement contre. Et que donc son gouvernement ne tienne pas. Jean, tu es beurre salé ou beurre doux? Beurre salé. Évidemment. Beurre salé et Mont-Saint-Michel est en Bretagne. Les ministres et députés sont considérés chômeurs là techniquement? Non, pas les ministres. Les députés, leur mandat a pris fin. La faute du joueur breton. Non, c'est pas une faute, hein. C'est une vérité scientifique historique. Le Mont-Saint-Michel est en Bretagne. Il y a un énorme lobby normand qui existe jusque dans les manuels scolaires, qui fait croire à tout le monde que le Mont-Saint-Michel est normand, mais c'est pas vrai. Vérité géologique aussi. Oui. Le Couesnon, dans sa folie, a mis le mont en Normandie. Le Couesnon, dans sa panique, a mis le mont en Armorique. Voilà. Qu'en penserait José Sarouel? Je meurs de savoir ce qu'il en penserait, évidemment. Un député élu doit-il démissionner de son emploi ou son contrat est mis en pause? Ça dépend du type de contrat. Ça dépend complètement du type de contrat. Ça dépend de... Ouais. S'il est fonctionnaire, il est mis en disponibilité. Il peut être mis en disponibilité par une entreprise. S'il est chef d'entreprise, il doit arrêter d'être le gérant de son entreprise. Je me souviens, j'avais interviewé un sénateur qui était médecin et qui continuait à recevoir dans son cabinet le vendredi. Il recevait des consultations de patients toute la journée du vendredi, c'était sanctuarisé dans son agenda. Il était hors de question qu'il perde le lien avec le terrain. Alors heureusement, il était élu en Île-de-France, donc il n'avait pas beaucoup de distance à faire par rapport au Sénat, mais il gardait son activité. Il y a des députés, et des sénateurs qui sont agriculteurs, qui ont toujours leur exploitation agricole. Elle tourne sans eux parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont des employés, ils ont les membres de la famille, etc. Mais ils sont agriculteurs. Il y avait des députés médecins qui ont repris le taf durant le Covid. Oui, oui, on s'en souvient. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'extrême droite a déjà pris une place au pouvoir dans toute l'histoire de France ? Oui, entre 1940 et 1944. Manuel Valls, il est joueur de flûte à côté. J'aimerais bien voir un boulanger sénateur. Je suis pas sûr que ça existe. Il n'y a pas eu dans les années 80 quand le FN avait une trentaine de députés. Non, mais ils n'étaient pas au pouvoir. Je te rappelle que c'est 289 députés qu'il faut pour être au pouvoir. Donc le FN, dans les années 80, il était d'opposition. Est-ce que Pétain était déjà considéré extrême droite avant la guerre ? Non, il était flou. Alors, il y a un podcast que je vous invite à lire qui est absolument extraordinaire sur Philippe Pétain. On avait reçu son auteur. On avait reçu son auteur sur Backseat qui s'appelle... Ça va me revenir. Philippe Collin. Et je l'ai retrouvé tout seul. Même pas eu besoin du chat. Je suis trop fort. Philippe Collin, qui a fait un podcast sur la biographie de Philippe Pétain. Je vous invite à l'écouter. Elle est extraordinaire. Très très bonne série de podcasts. Un bonheur à écouter, d'une intelligence, d'une écriture extraordinaire et tout. Voilà, vous avez le lien dans le chat. Il a aussi fait une série de podcasts sur Léon Blum, que je vous invite aussi à écouter. Parce que, voilà. Et il explique toute l'histoire de Philippe Pétain. Philippe Pétain était un catholique conservateur traditionnaliste qui s'est révélé un fiefé collaborateur du nazisme au pouvoir. Un zélé collaborateur du nazisme au pouvoir. Philippe Collin vient de sortir une nouvelle série de podcasts sur le général Leclerc. Oh, je vais m'empresser de lire ça, d'écouter ça. Tu crois qu'il y a un risque de report des JO si aucun gouvernement d'union ne se crée par exemple ? Non, il n'y a aucune chance. Les JO sont prêts, les JO sont organisés depuis des mois, des années, par des fonctionnaires dans les administrations, par des entreprises, par des collectivités locales. Tout est prêt, tout va se dérouler, les plans sont prévus, etc. Il ne va pas y avoir de surprise. Voilà, l'activité gouvernementale du pays n'a rien à voir avec l'organisation des Jeux Olympiques. On est à quelques semaines du début. Ça va avoir lieu. Voilà. Vous inquiétez pas. C'est comme la rentrée scolaire prochaine, je vous le dis tout de suite, elle est prête. La rentrée, elle est prête. Le baccalauréat qui a lieu en ce moment, il est prêt. Il est organisé par les administrations, par l'éducation nationale, par les enseignants, les établissements scolaires, les rectorats, etc. Ça n'a rien à voir avec l'identité du ministre de l'Éducation nationale. Ce qui peut éventuellement perturber les Jeux Olympiques, c'est s'il y a des grandes manifestations. S'il y a des grandes manifestations,
Ça peut être chiant, notamment parce qu'une partie des Jeux Olympiques se tient en Seine-Saint-Denis, où on se doute qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de réactions à une hypothétique arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Est-ce que l'administration publique et ses fonctionnaires pourraient empêcher le RN dans la mise en place de sa politique? Ça, c'est une bonne question. Peut-il y avoir une résistance de l'intérieur? C'est difficile, on va pas se mentir. Moi, j'ai bossé en cabinet ministériel, j'ai bossé en cabinet en collectivité. Je vois bien comment ça fonctionne, je vois bien comment l'administration peut être une force de ralentissement, de blocage, de cassage de burnes. Mais au bout du bout, elle ne peut pas empêcher une politique de se mettre en place. Les fonctionnaires, au bout du bout, ils appliquent. Et puis le Rassemblement national va nommer un certain nombre de responsables d'administration. Si d'aventure le Rassemblement national arrive au gouvernement, virgule, les ministres Rassemblement national, ils vont nommer un directeur de cabinet. Ils vont nommer un chef d'administration centrale. Donc, la politique du RN se mettra en place. Est-ce que le RN est raciste? Oui. Ce qui peut ralentir, c'est les décisions de la justice. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, qui, eux, auront à connaître des actes de l'administration. Le Conseil constitutionnel aura à connaître des lois et de la constitutionnalité des lois. Le Conseil d'État, lui, aura à connaître des décrets, des projets de loi et des décisions de l'administration d'une manière générale. Donc, il peut y avoir effectivement un ralentissement pour le Rassemblement national qui va mettre du temps à voter des lois pour modifier les équilibres, les libertés, etc. Le Conseil constitutionnel sera aussi attaqué dans sa légitimité. Alors ça, je fais totalement confiance au Rassemblement national pour remettre en cause le contrôle de constitutionnalité des lois, le contrôle de l'égalité du Conseil d'État. C'est sûr. Ils l'ont toujours fait, ils le feront toujours. Quand ils voudront mettre en place leur politique raciste, leur politique de déportation, etc., que le Conseil constitutionnel censurera leurs lois, ils mettront en doute la compétence du Conseil constitutionnel. La République des juges, voilà, très bon exemple. Mais qui sont-ils, ces juges parisiens qui ne connaissent pas le terrain, pour nous empêcher de mettre en place la politique que veulent les Français, ils ont voté, nous sommes légitimes, eux ne le sont pas, etc. Classique shit de l'extrême droite, la remise en cause du juge. Et par-delà, des règles que les juges sont là pour faire respecter. Donc, les droits de l'homme. Et les institutions d'une manière générale. Comme Israël avec l'ONU. Comme le gouvernement de Benjamin Netanyahou avec l'ONU, mais comme le gouvernement de Benjamin Netanyahou avec la justice israélienne, hein? Rappelez-vous les immenses manifestations qui avaient lieu encore l'année dernière contre Benjamin Netanyahou. C'était contre sa réforme de la justice. Bonsoir Jean, que permet un référendum contre un avis du Conseil constitutionnel? Si le peuple français souverain vote par référendum, le Conseil constitutionnel doit se plier à la décision du peuple souverain. Le Conseil constitutionnel l'a déjà dit dans sa jurisprudence, il refuse de se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision prise par référendum. Le peuple a parlé, ça a valeur de loi constitutionnelle. Je vous rappelle que Marine Le Pen a toujours dit que si elle arrivait au pouvoir, elle organiserait un référendum sur l'immigration. Je ne sais pas si vous voyez l'odeur du référendum et du débat qu'on va avoir dans les médias.
Comment le Conseil constitutionnel a-t-il pu valider le traité de Lisbonne alors que les Français avaient dit non en 2005? Tu oublies le vote de 2007. Après 2005, il y a eu 2007. 2005, les Français ont voté non au référendum. 2007, les Français ont voté Nicolas Sarkozy, qui a promis dans son programme de faire voter un nouveau traité européen qui reprendrait une grande partie du traité de 2005. Le traité de Lisbonne a été adopté par le Congrès. Le Conseil constitutionnel a validé le traité de Lisbonne qui a été adopté conformément à la procédure prévue par la Constitution. La plus grande légitimité, c'est le référendum, c'est pas le Congrès. Si le Congrès est saisi, c'est d'une loi enfin, c'est d'une loi constitutionnelle qui est passée par les fourches caudines du traité du Conseil constitutionnel. Pourquoi quelqu'un qui se revendique de gauche a peur d'un référendum? Alors, je ne me revendique pas de gauche, et j'ai pas peur d'un référendum, mais tu remarqueras que la gauche a toujours critiqué le référendum. La gauche n'aime pas le référendum. C'est du césarisme juridique, le référendum. Répondre oui ou non à une question complexe, c'est pas une démocratie. C'est du populisme. Oui, c'est du populisme. C'est surtout l'hubris d'un homme en général, le référendum. C'était le cas sous le général de Gaulle, évidemment. Dis que le peuple est con. Je dis pas que le peuple est con. Je dis que c'est pas la même méthode démocratique d'avoir recours au référendum ou d'avoir recours au Parlement. Et effectivement, je ne suis pas pour qu'on pose certaines questions au référendum, parce que j'estime que ça ne relève pas d'un référendum. Les questions sociétales, les questions d'immigration, les questions LGBT, les questions de droit de la famille ne regardent pas le référendum. Je suis contre qu'on soumette, à l'époque en 2013, j'étais contre quand la droite proposait un référendum sur le mariage pour tous. Je ne suis pas d'accord pour qu'on livre au débat public la vie des gens, la vie privée des gens. Et c'est pareil pour la situation des personnes immigrées. Je suis radicalement opposé à ce qu'on donne en pâture au débat public infernal d'une campagne référendaire la question de la nationalité des gens. Donc c'est pas le référendum, c'est démocratique, donc la démocratie impose qu'on fasse des référendums sur tout. C'est pas vrai, la démocratie ne se limite pas simplement déjà au fait électoral, surtout pas, et en plus au fait référendaire. Convention citoyenne. Ça fait partie des solutions intéressantes, la convention citoyenne. Le tirage au sort de citoyens représentatifs par leur diversité de la population qui élaborent des propositions dans un travail de long terme. C'est pas mal. C'est un peu vu comme une solution magique, le référendum. Le référendum, en général, ça déchire les gens. Ça déchire le pays en deux, entre deux camps. Oui, mais l'aléatoire peut aussi créer des déséquilibres. Pas si tu mets des conditions au tirage au sort de représentativité. Ça dépend de la question posée. Ça dépend de la question posée. Ça dépend de qui pose la question. Ça dépend de quel pouvoir pose la question. Pour quelle raison? C'est pour ça que moi, à titre personnel, je suis favorable à un référendum d'initiative citoyenne. Parce que c'est pas la même chose. Un référendum décidé par des ONG, par un camp social quel qu'il soit, et un référendum décidé par un président de la République seul dans son bureau. Ça dépend de comment est posée la question. Ça dépend de comment est posée la question. À quel moment? Sinon, tu fais une Macron, tu organises un référendum sur un aéroport et tu l'appliques pas. Oui, très bon exemple. Notre-Dame-des-Landes, on n'a pas réservé, on n'a pas respecté la décision prise par référendum local. T'as des exemples de référendums d'initiative citoyenne? Non, parce que ça n'existe pas encore dans la Constitution. Il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne. Il y a des référendums d'initiative partagée qui existent. Et il n'y en a jamais eu qui a réussi à obtenir le nombre de signatures nécessaires. Le RIC était une demande des Gilets jaunes, effectivement. Et donc donner le pouvoir à une majorité, c'est mieux qu'un référendum? Mais ça dépend sur quelle question, ça dépend pourquoi faire. Une majorité, elle va élaborer des législations. Un référendum, c'est une réponse oui-non à une question complexe. C'est pas la même chose, je peux pas tout résumer à ça. Faire des référendums pour avoir 20% de participation, ça sert à rien. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ensuite, ça a permis des votes sur une question xénophobe, Dixit, immigration de masse. Ouais. Ouais, enfin, le populisme référendaire en Suisse, c'est quand même quelque chose aussi. Référendum pour ou contre les référendums. Ça, ce serait la solution. Projet de loi sur la fin de vie, bah le projet de loi sur la fin de vie, il est arrêté là. Il est arrêté là, le projet de loi sur la fin de vie. Ce qui est dommage d'ailleurs, hein, parce que je sais que les associations attendaient une loi. Hein. Ça fait des années qu'on attend cette législation. On verra si elle sera reprise par le prochain gouvernement, mais. Le RN peut-il supprimer le droit du sol comme il le souhaite? Je pense que c'est pas constitutionnel, la suppression du droit du sol comme le souhaite le Rassemblement national. Ça crée une inégalité entre les personnes déjà présentes et les personnes à venir. Salut, c'est quoi exactement le droit du sol aujourd'hui? Le droit du sol, c'est le fait que quand tu nais sur le territoire français, tu acquiers la nationalité française à ta majorité. Le principe du droit du sol. Par opposition au droit du sang, tu acquiers la nationalité si tes deux parents sont de nationalité. C'est quoi la majorité? En France, c'est 18 ans. Si vous ne le saviez pas. C'est pas seulement si tu as un parent né en France, ça? Non? Alors en plus, non, parce qu'en France, il n'y a pas que le droit du sol, c'est un système mêlé entre les deux, où on prend le meilleur du droit du sang et le meilleur du droit du sol. Donc c'est aussi, si tu as deux parents français, mais que tu nais à l'étranger, tu acquiers quand même la nationalité française. Explique-moi pourquoi parfois j'entends la majorité à 21 ans. Je sais pas pourquoi t'entends ça, t'as des voix dans ta tête? Je suis désolé. Mais la majorité en France, c'est 18 ans. Ils peuvent revenir sur le pouvoir du Conseil constitutionnel? Non, le Rassemblement national ne peut pas revenir sur les pouvoirs du Conseil constitutionnel, sauf s'ils réussissent à modifier la Constitution. Et pour modifier la Constitution, ils ont besoin d'une majorité au Congrès. Je comprends pas pourquoi tu dis que tu ne te revendiques pas de gauche quand tous tes chroniqueurs sont de gauche. Mais moi, je me revendique de rien du tout. Tu me mets où tu veux. En plus, ça a l'air de t'empêcher de dormir. Là, il est 21h17. Mets-moi où tu veux me mettre. Y a aucun problème. C'est toi qui décides. C'est quoi le Congrès? Le Congrès, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent modifier la Constitution à la majorité des 3/5. Tu sais, c'est une grande salle à Versailles, tu l'as peut-être déjà vue. Le Congrès, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est ça. Exactement, c'est ça. Qu'on réunit exceptionnellement, en général, pour modifier la Constitution. Peut-être que Macron va réunir le Congrès, d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai que tous les anciens présidents sont au Conseil constitutionnel? Oui, il est inscrit dans la Constitution que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Mais l'usage ces dernières années, ça n'a pas toujours été le cas, c'est que les anciens présidents de la République ne siègent pas au Conseil constitutionnel. Ils y vont pas. Voilà, ils participent pas aux réunions, ils participent pas aux décisions, ils ne sont pas là, ils ne font pas partie du Conseil constitutionnel. Membre de droit, ça veut dire que t'as le droit d'y aller. Mais t'es pas obligé. Giscard, il y siégeait. Chirac, il y a passé une tête de temps en temps, mais rarement. Sarkozy et Hollande, n'ont jamais siégé au Conseil constitutionnel. Si Hollande est député, il ne pourra pas y aller. Je pense pas. Je pense pas. Si François Hollande est membre du pouvoir législatif, il n'aura plus accès au Conseil constitutionnel. Ça me paraît logique. Il y a un conflit d'intérêts évident. Un membre du pouvoir législatif ne peut pas siéger au Conseil constitutionnel. C'est pas possible. Chirac n'y allait pas pour faire chier Giscard? Si. Si, carrément. Ça faisait marrer Debré. Réunir le Congrès, c'est uniquement pour modifier la Constitution? Non, ça peut être pour écouter une allocution du président de la République. Un truc qui a été introduit dans la Constitution en 2008. Pourquoi Macron réunirait le Congrès? Pour se réimposer en chef de l'État devant un Parlement divisé. Ça lui ferait plaisir. Hollande 2015, par exemple, après les attentats. Oui, alors Hollande, c'était après les attentats. Macron, il avait déjà réuni le Congrès chaque année. Il l'a réuni en 2017, il l'a réuni en 2018, il l'a réuni en 2019. Ensuite, il y a eu le Covid, donc il ne l'a pas réuni. Et je ne sais pas s'il l'a réuni après 2022, je crois pas. Donc il a arrêté la tradition qu'il a essayé d'instaurer. Emmanuel Macron voulait créer un espèce de discours sur l'état de l'Union à la française, avec une prise de parole annuelle du président de la République. D'ailleurs, Emmanuel Macron, en 2017, quand il a réuni le Congrès pour la première fois, il a déclaré qu'il souhaitait une modification de la Constitution de manière à ce que les députés et les sénateurs, les membres du Congrès, puissent lui répondre. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution est écrite de telle manière que le président de la République se réunit le Congrès, prend la parole, puis il doit sortir de la salle, et les députés et sénateurs prennent la parole après, mais en son absence. En présence du gouvernement, mais en absence du président de la République. Et Emmanuel Macron a dit, moi je voudrais que vous puissiez me répondre et que je puisse vous répondre aussi. Qu'il y ait un dialogue, quoi. Qu'il y ait un débat. Et il a donc proposé une réforme de la Constitution qui s'est écrasée sur l'affaire Benalla. C'est aussi simple que ça. Donc Emmanuel Macron n'a jamais réformé la Constitution. Est-ce que c'est possible d'avoir une majorité au Sénat et à l'Assemblée? Oui, c'est possible. Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, avait une majorité au Sénat et à l'Assemblée. Hollande aussi, pas longtemps. Pas longtemps. Il l'a eu de 2012 à 2014 de mémoire, la majorité au Sénat, qui effectivement était socialiste, ouais. Est-ce que c'est une obligation de nommer un premier ministre de la majorité de l'Assemblée? Oui, c'est une obligation politique. Parce que tout autre Premier ministre se fera retoquer par une motion de censure. C'est donc bien la majorité qui a le pouvoir de nommer, enfin d'avoir un Premier ministre. Si on réforme la Constitution, on passe automatiquement à la Sixième République. Ça, c'est une bonne question, parce que pour passer à une nouvelle République, il faut un changement majeur dans l'équilibre des institutions. Mais on peut poser la question de savoir si certaines modifications de la Constitution ne sont pas en soi des modifications tellement substantielles de la Constitution qu'elles emmènent à un changement de régime. Par exemple, la réforme de 1962, qui prévoit l'élection du président de la République au suffrage universel direct, a profondément modifié les équilibres politiques de la Ve République. Donc on peut considérer qu'en fait on est passé en Sixième République en 62. Et ensuite, on peut continuer cette réflexion-là en se posant la question de savoir si les réformes constitutionnelles et les décisions du Conseil constitutionnel des années 70, qui ont profondément modifié là aussi les équilibres de la Ve République, n'ont pas emmené une Septième République. Et si on joue à ce petit jeu-là, ça veut dire qu'on en est à la XXe République, en fait. Le quinquennat en 2000, grosse réforme. La réforme de 2008 aussi, à certains points de vue, elle a bougé des choses non négociables, hein, enfin non négligeables, pardon. Dans les équilibres politiques de la Ve République. Donc, on peut considérer qu'on a encore changé de République. La morale de l'histoire, c'est qu'on s'en fout du numéro de la République. On s'en fout pas mal. C'est pas ça qui est important. C'est pas le chiffre qu'il y a devant. On s'en branle. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ça qui compte. Du coup, faut compter les réformes constites de la quatrième et de la troisième aussi.
Ouais.
La réforme du général de Gaulle est quand même une réforme totale. Ah oui, en 1958, on a clairement changé de république. Maintenant, je te demande, est-ce que tu ne penses pas qu'on a aussi clairement changé de république en 62? Ça se discute. On peut en discuter. Il s'est passé quoi en 62? En 62, le président de la République, Charles de Gaulle, a déclenché un référendum qu'il n'avait pas le droit de déclencher, donc il a violé la Constitution. Il a violé la Constitution en déclenchant un référendum proposant aux Français que l'élection du président de la République soit faite au suffrage universel direct. Ce qui n'était pas le cas avant. En 1958, dans la Constitution, il était prévu que le président de la République soit élu par les grands électeurs. Donc peu ou prou les mêmes électeurs que ceux qui votent pour les sénateurs. De Gaulle a donc déclenché un référendum au mépris de la Constitution, retirant... Non, d'ailleurs, en plus, qu'est-ce que je raconte? C'était pas les grands électeurs, l'élection du président de la République, c'était l'Assemblée nationale, le Sénat. Et quelques grands électeurs, je ne sais plus lesquels. Bref. Bref, en tout cas, il proposait de retirer au Parlement un pouvoir très important. Très important. Celui d'élire le président de la République. Donc, le président de la République a court-circuité le Parlement pour demander directement aux Français. Est-ce que vous voulez élire vous-même le président de la République? Alors avant même que le référendum ait lieu, l'Assemblée nationale, premier truc qu'elle a fait quand elle a appris ça, alors même qu'il y avait une majorité de gaullistes, hein, c'est qu'ils ont voté la censure du gouvernement. Première motion de censure adoptée. Le général de Gaulle a répondu en dissolvant l'Assemblée nationale. Et les Français ont non seulement voté oui au référendum, mais ils ont voté largement pour les gaullistes aux élections. Il a tout gagné de Gaulle. Il a renforcé son pouvoir, il a écrasé le Parlement, il a dégagé tous ceux qui l'ont fait chier, il a gardé son Premier ministre, qui était Pompidou. Fin du banc. À l'issue de cet épisode, il y a un jeune député socialiste qui a écrit un livre pour dénoncer la Ve République et le général de Gaulle. Un livre qui s'appelle Le coup d'État permanent. Et ce député, il s'appelait François Mitterrand. François Mitterrand a fait son début politique. C'est pas vraiment son début, mais avec la dénonciation radicale de l'esprit des institutions de la Ve République et de la pratique institutionnelle de Charles de Gaulle. François Mitterrand a décidé de se présenter en 1965 à la présidentielle, vu que c'était une présidentielle au suffrage universel direct. Il s'est présenté, c'était pas le seul, il y avait d'autres candidats. Et Charles de Gaulle s'est présenté à la présidentielle, évidemment, en 65, et il était... convaincu, Charles de Gaulle, qu'il serait élu dès le premier tour. Il venait de gagner un référendum et des législatives largement. Il s'est dit, les Français vont me faire confiance à nouveau, c'est normal. Je suis Charles de Gaulle. N'y aura qu'un seul tour à cette présidentielle. Et la patatras. François Mitterrand se qualifie au second tour face à Charles de Gaulle. Il paraît que Charles de Gaulle a été déprimé et qu'il a failli présenter sa démission. Il a failli démissionner. Il a vraiment eu une dépression nerveuse. Il s'est retrouvé en ballotage au second tour. Alors, il a quand même gagné. Quand même, faut pas déconner. Il avait fait 45% au premier tour, c'est quand même pas dégueulasse, mais il a pas fait 50. Il a fait 45. Et il s'est retrouvé au second tour face à un Freluquet, un Mitterrand, socialiste en plus. Il n'y a rien qui va. Un vichiste en plus, ouais. De Gaulle a hésité à utiliser l'argument de la Francisque de François Mitterrand contre lui. Mais il s'est dit que ça ferait tâche de rappeler qu'il y a eu des collabos en France. Qu'il y a des résistants qui ont été collabos. Charles de Gaulle voulait pas trop attirer l'attention là-dessus. Parce que Charles de Gaulle, il avait quand même le récit du résistentialisme, toute la France a résisté, la France était à Londres, etc. Ça fait vachement tâche quand même de rappeler que en fait c'est plus compliqué que ça. Donc voilà ce qui s'est passé en 62. Et depuis, les Français élisent le président de la République au suffrage universel direct. Quand François Mitterrand est devenu président de la République en 1981, il y a beaucoup d'observateurs qui se demandaient, mais dis donc, vu qu'il a écrit le coup d'État permanent, il va nous proposer une réforme de la Constitution, ce Mitterrand, et on va avoir une 6ème République de gauche, ou une 5ème République réformée, quoi. Pas du tout. François Mitterrand s'est installé dans le costume du président de la République, puis il s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il est quand même vachement confortable, ce costume. T'as le pouvoir, mais t'es responsable de rien. T'as pas à rendre de compte à l'Assemblée. Personne te fait chier. T'es tranquille peinard à l'Élysée. T'es un monarque républicain. Mitterrand s'est dit que finalement, tout bien réfléchi, ça lui convenait. Donc il est resté président de la Ve République. Tu peux couler des navires de Greenpeace, ouais. Une telle manœuvre, modifier la Constitution par référendum, est-elle possible aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, les constitutionnalistes estiment que ce ne serait pas possible de refaire une de Gaulle, parce que le décret de convocation des électeurs au référendum serait contrôlé par le Conseil constitutionnel et serait jugé contraire à la Constitution. Voilà. C'est ce qu'estime la doctrine actuellement. Après, on verra si Marine Le Pen devient présidente de la République et décide d'avoir recours à un référendum. Peut-être qu'elle le fera passer par l'article 11, comme De Gaulle en son temps. Ils étaient en vacances en 62. Non, mais en fait, en 62, il n'y avait pas vraiment de Conseil constitutionnel. Pour le dire vite, le Conseil constitutionnel, il est vraiment né dans les années 70, avec une série de jurisprudences importantes. Donc voilà. La fameuse décision sur la liberté d'association, exactement. Est-ce qu'il y a un moyen légal de rendre inopérant le Conseil constitutionnel ? Non, il faudrait changer la Constitution. Modifier la Constitution pour limiter le contrôle de constitutionnalité du juge. Constitutionnel. Il n'y a pas de moyen légal de changer la Constitution. Ça marche pas comme ça. Du coup, par quel biais institutionnel on peut changer la République ? On peut changer de République par une modification de la Constitution ? Ou l'adoption d'une nouvelle Constitution ? Comment est formé le Conseil constitutionnel ? Le Conseil constitutionnel, il est nommé. Il y a 9 membres du Conseil constitutionnel, plus les anciens présidents, je vous l'ai expliqué. Les 9 membres du Conseil constitutionnel sont nommés respectivement par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Leur nomination doit faire l'objet d'une audition par les commissions des lois des assemblées. Qu'est-ce que tu penses du droit de vote à 16 ans? Ah, moi, je suis pour. Carrément pour. Si je comprends bien, elle peut quand même changer la Constitution si elle a une majorité absolue à l'Assemblée et au Sénat. Non, il faut plus que ça. Il faut la majorité des 3/5. Donc c'est encore plus que la majorité absolue du Congrès. OK? Le Rassemblement national n'existe pas au Sénat. Ils ont un sénateur, Stéphane Ravier, qui a quitté RN pour rejoindre Reconquête. Elle peut abolir cette règle des 3/5. Oui, mais pour ça, il faut qu'elle le fasse adopter aux 3/5 du Congrès. Et ils ont 2 autres sénateurs, le RN, qui ont été élus aux dernières élections sénatoriales, l'année dernière. Bref, c'est que dalle. Ils sont tout petits au Sénat. LFI en a 0 aussi. Oui, la France insoumise n'a pas de sénateur. Pour avoir des sénateurs, il faut avoir une assise territoriale importante. Il faut remporter les élections locales. Il faut avoir des mairies, surtout. Des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. C'est pour ça, c'est normal qu'au Sénat, compte tenu du mode d'élection des sénateurs, on a une représentation des partis qui ont un ancrage local fort et historique. C'est les élus locaux qui élisent les sénateurs, c'est ça, exactement. Et dans le corps électoral de ces grands électeurs, comme on les appelle, la plus grande partie, ce sont des maires de petites communes. Il y a 36 000 communes en France, donc vous avez 36 000 votants, déjà. Pourquoi on parle moins du Sénat que de l'Assemblée nationale? Parce que le Sénat est institutionnellement moins important que l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a pas le pouvoir de retoquer un gouvernement. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. Donc, la vie politique et parlementaire se passe surtout à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que toute l'attention est dirigée vers l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'il y a des motions de censure. Le Sénat ne peut pas en adopter. C'est à l'Assemblée nationale qu'il y a des discours de politique générale avec vote de confiance. Ça fait quelques années qu'il n'y en a pas eu. Il sert à quoi du coup? L'utilité d'une institution ne se résume pas à sa capacité de blocage. C'est pas parce que le Sénat ne peut pas bloquer que le Sénat ne joue pas un rôle important dans le travail législatif et dans le travail de contrôle de l'action du gouvernement. Les sénateurs participent à l'écriture des lois par leur droit d'amendement, par leurs modifications proposées dans les lois. Les sénateurs savent très bien qu'ils ne peuvent pas avoir le dernier mot contre l'Assemblée nationale. Du coup, ils déposent pas n'importe quel type d'argument, n'importe quel type d'amendement. Ils déposent des amendements qu'ils jugent les plus utiles à l'écriture de la loi, pour que la loi soit bien écrite. L'Assemblée nationale vote une première lecture, une première version du texte de loi. Les sénateurs reçoivent cette version et ils décident de la réécrire, de modifier la manière dont elle est écrite, sans forcément en changer l'esprit. En se disant, si on l'écrit comme ça, c'est plus intelligent, parce que ça permet d'éviter tel et tel écueil, par exemple. Ils font un énorme travail légistique d'écriture de la loi. Le Sénat donc modifie la loi de l'Assemblée et renvoie la copie à l'Assemblée. L'Assemblée reçoit la copie du Sénat, et dans 75% des cas, ils décident de garder les modifications faites par le Sénat. C'est donc la preuve que le Sénat ne sert pas à rien, puisque ce qu'il propose est conservé à la fin par l'Assemblée. C'est donc qu'a priori, l'Assemblée est d'accord avec le Sénat. Il trouve qu'effectivement, c'est mieux écrit comme ça. Pourquoi le Sénat est quasi toujours à droite? Parce que les électeurs qui votent pour les sénateurs sont les élus locaux, et parmi les élus locaux, en France, il y a une grande majorité de maires de petites communes rurales. Et que, historiquement, sociologiquement, traditionnellement, les maires de petites communes rurales sont un électorat plutôt conservateur. C'est pour ça qu'il y a une surreprésentation de la droite au Sénat. Les petits maires sont les bourgeois du coin. Alors non, ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie. C'est plutôt les agriculteurs du coin, les maires. Mais les maires de petites communes rurales, c'est pas des bourgeois. Hein. Fascinant de savoir que le Sénat a déjà été majoritairement de gauche. Ouais, le Sénat a été majoritairement de gauche à partir de 2011. Pour une raison très simple, c'est que la droite était au pouvoir depuis 2002. Et que comme la droite était au pouvoir, elle se prenait des taux aux élections intermédiaires, notamment aux élections locales, notamment aux élections municipales. Il y avait une véritable force territoriale à l'époque, c'était le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste avait inventé le socialisme municipal, ils avaient remporté des victoires écrasantes dans les années 90, 80 même, et ils avaient continué à remporter des victoires aux élections locales successives. Ils avaient réussi à obtenir un vote de défiance contre Nicolas Sarkozy, contre Jacques Chirac avant, et du coup la gauche avait le vent en poupe aux élections locales. De plus en plus de départements ont viré à gauche. La quasi-totalité des régions était socialiste. Des mairies de grandes villes sont tombées dans l'escarcelle de la gauche. Lyon avec Gérard Collomb, Paris avec Bertrand Delanoë, Lille avec Martine Aubry, mais c'était déjà à gauche. Il y avait encore des bastions de droite, Jean-Claude Gaudin, pardon, à Marseille par exemple, Bordeaux évidemment, mais avec Juppé, mais dans plein de villes intermédiaires, la gauche avait gagné, la gauche avait progressé. Donc, les socialistes se sont retrouvés à avoir beaucoup de grands électeurs, de plus en plus. Et au fur et à mesure que les élections sénatoriales avaient lieu, puisqu'on ne renouvelle le Sénat que par moitié, à l'époque c'était en plus c'était un renouvellement par tiers, encore différent, les sénateurs étaient de plus en plus à gauche. Il y avait vraiment le Parti Socialiste grignotait, et en 2011, à la surprise générale, le PS a obtenu la majorité absolue du Sénat. Et le Sénat s'est retrouvé à gauche pour la première fois depuis le Second Empire. La sociologie sait expliquer pourquoi les agriculteurs sont surreprésentés dans les petites communes. Non mais il n'y a pas besoin de sociologie pour comprendre ça, t'as déjà vu une petite commune, enfin tu vois à quoi ça ressemble la France rurale. Rassure-moi. Il y a des champs partout là. Enfin, une petite commune, les agriculteurs sont surreprésentés, je sais pas comment, je peux pas te l'expliquer, je suis désolé. Voilà, il y a plus d'agriculteurs à la campagne qu'en ville. Pardon, il est tard, j'ai faim. C'est la sociologie. Ouais, c'est la sociologie. C'est un vrai métier de caresser des vaches et de regarder le blé pousser.
T'es un connard. T'es vraiment un connard.
C'est de Dava? C'est possible. Jean, tu peux rappeler les entités de l'UE, Commission, Parlement, Conseil? Ah oui, c'est ça, tu viens de le dire. Bon, hey, on rigole, on rigole. Mais il est 21h46. Moi, j'ai pas bouffé. Donc, il y a un moment donné, les blagues les plus courtes sont les meilleures. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis pas sûr de restreamer demain parce que le chat m'a dit qu'il fallait que je lève le pied et que je fasse attention à ma santé. Alors, moi, j'obéis au chat. Hein. Vous connaissez, je suis très respectueux du chat. Petite lasagne ce soir, ça va finir en lasagne. Ça va finir assez vite en lasagne, ouais. Merci d'avoir été là, les copains. C'était chouette. On se retrouve. J'allais dire, on se retrouve demain. C'est le métier. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se retrouve quand on se retrouve. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été là, les copains. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Salut à tous. Ciao.